le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 6 octobre 2004 de 18 à 21h, en différé jeudi 7 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
C'est à moi déjà ? Oh, je croyais qu'il y avait encore un peu de musique. Amis de la Résistance, bonsoir,
Madame Victoria. La Résistance est en retard, bonjour.
Madame Victoria, je vous salue bien bassement. Madame Totor, on va l'appeler maintenant.
Totor.
Non, c'est pas bien.
À cause de Victor Hugo, je tolérerais à la rigueur.
Je parle d'une référence, cette vieille canaille. Ce soir, nous recevons... qui donc ? Ben voilà, alors je vous donne la liste. Le docteur Dor, bonjour docteur.
Bonjour.
Allez-vous bien ?
Mais bien, merci.
Vous êtes venu à vélo ?
Non, pas ce coup-ci.
Vous n'avez jamais vu le docteur Dor à vélo, lisant son journal tout en roulant au milieu du flot des véhicules ?
Je serais bien incapable.
Ah non, je vous confonds avec Guillaume. C'est Guillaume qui lit son journal à vélo. Monsieur Étienne Duchalard, bonjour monsieur Étienne Duchalard.
Bonjour.
Vous allez bien aussi ? Vous n'êtes pas venu à vélo non plus ?
Non plus.
Bien. Jean-Paul Leperlier, qui ne peut pas dire bonjour parce qu'il n'a pas de micro pour l'instant, mais il le fera tout à l'heure. Monique Beljanski, bonsoir Madame Beljanski. C'est gentil de venir nous... Mais il faut que vous parliez dans le micro, parce que voilà.
Bonjour et merci de votre hospitalité.
Mais toujours avec plaisir. Nous recevrons ensuite messieurs Henri Dumérac et François-Xavier Maxan, qui sont respectivement ingénieurs à Grenoble et ingénieurs à Paris. Ingénieur à Grenoble, voilà, c'est amusant ça me fait toujours rire. Je suis le seul d'ailleurs.
Pas du tout, j'étais en train d'avaler mon micro.
C'est bien. Et qui sont, en tout cas, Dumérac est polytechnicien. On me dirait que de quoi il va nous parler. Ils vont nous parler d'un produit, tiens, ça devrait intéresser Madame Beljanski et Jean-Paul Leperlier. Un produit qui s'appelle, sauf erreur de ma part, et c'est pas absolument exclu qu'il y en ait une, mégamine. Qui est une roche volcanique réduite à l'état tellement pulvérulent qu'elle est presque liquide et qui a des effets antioxydants. C'est un produit nouveau et tout à fait extraordinaire. L'histoire de ce produit est intéressante. Et ensuite, nous recevrons Monsieur Jean-Pierre Petit. Alors Jean-Pierre Petit, on le connaît ou on le connaît pas. Enfin, ceux qui le connaissent le connaissent bien parce que c'est un des personnages les plus contestés de la sphère scientifique, du monde scientifique. Il a fait avancé de nombreuses hypothèses qui lui ont valu la haine vigilante de ses confrères, mais ça ne vous apprendra, c'est un grand classique. Et alors, il a une petite manie, moi j'appelle ça une petite manie, que je trouve sympathique, mais enfin, qui ne prête pas à conséquence. C'est un grand amateur d'extraterrestres. Il a notamment beaucoup travaillé sur la question bizarre, je dois le dire, des jumeaux. Est-ce que quelqu'un sait ici ce que sont les jumeaux ? Bon, ben vous l'apprendrez, ça vous fera pas de mal. Et moi aussi, par la même occasion. Non, je sais un petit peu, mais pas beaucoup. Et il vient d'écrire un livre, L'année du contact, qui est un livre tout à fait intéressant et tout à fait amusant, parce que c'est à partir, sous la forme d'une fiction, le récit d'une véritable conversation qui a eu lieu avec des gens, on ne sait pas trop qui, et lui, il pense que ce sont... des extraterrestres qui nous ont contactés comme nous on contacte les singes pour vérifier s'il peut y avoir un échange avec notamment les bonobos qu'on arrive à faire parler par l'intermédiaire d'interfaces protocolaires informatisées, ça s'appelle, c'est-à-dire des espèces de claviers sur lesquels ils appuient pour dire j'ai soif, j'ai faim, je suis content, je suis pas content, etc. Voilà, et donc...
Je croyais qu'on leur apprenait le langage des sourds-muets.
Aussi, oui, mais oui. Il y a deux techniques. Oui. Et puis, si Dieu veut, et l'horloge, le marquis Dolmetta pourra nous exposer ses dernières aventures dans la Jet Set.
Oui, si on veut, oui. Ah ben, il y a le gala
de l'entente cordiale à l'Opéra, qui était assez intéressant. Madame Chirac vêtue en sac de ciment, qui accompagnait le prince de Galles. C'est surprenant.
Qui était habillé en prince de Galles,
là ? Oui. Une calvitie de plus en plus importante.
Il y a toujours les oreilles, j'espère.
Oui. Mais qui pourront supporter la moumoute bientôt.
Vous avez de très belles bretelles, Marquis.
Oui, bon, c'est des bretelles européennes. Européennes,
oui. Des bretelles étoilées.
Voilà.
Elles sont pas solides. Porter la bannière.
Elles sont pas solides. Je perds mon pantalon parfois.
Oui, ça, c'est le genre de détail dont on aurait facilement pu faire l'économie. Hein.
Non, mais achetez pas ces bretelles, elles sont pas bonnes. C'est ça que je voulais dire.
Alors, je vais retirer les oreilles parce que c'est vraiment insupportable. Je dis tout. Vous savez, un des grands plaisirs de cette émission, c'est de recevoir des lettres. Et un des grands plaisirs du courrier, c'est les lettres anonymes. Mais là, il n'y en a pas. Il y a un monsieur qui s'appelle Anastase Bornbovitch qui me dit « Quand allez-vous cesser d'opprimer et de censurer Bernard Lugan ?» Alors, non, mais j'y reviens parce que on a l'impression des fois « Vox clamans in desert. » Non, sûrement pas. In deserto. Merci, docteur. Alors, docteur, vous avez gardé la mémoire de vos études de latin, et c'est bien, in deserto. Peut-être en voir qui, j'espère que vous êtes meilleur en espagnol qu'en latin. Alors, monsieur Bornbovitch, je vous explique un peu clairement les choses. Nous avions avec un problème avec Bernard Lugan et moi, c'est que Bernard Lugan voudrait avoir une émission à date fixe et que je ne peux pas, pour des raisons matériel lié à l'existence d'un journal qui s'appelle le Libre Journal de la France courtoise et dont je suis le rédacteur en chef sous l'autorité vigilante de mon épouse qui en est la directrice, je suis obligé donc de faire ce journal à des dates précises. Par conséquent, il y a des émissions auxquelles je ne peux pas participer parce que je fais mon propre journal. Et nous étions convenus avec Bernard Lugan que lorsque je ne pouvais pas venir, il prenait l'émission. Or, ça ne lui convient pas très bien, parce que lui-même, étant universitaire, a besoin d'avoir des dates fixes pour savoir, pour organiser son emploi du temps. Et donc, on avait tout le temps des difficultés. Et donc, nous sommes convenus, devant le succès de son émission, que cette émission méritait d'être, d'avoir un programme à date fixe, un horaire à date fixe. Et donc, nous avons demandé à Jean Ferré de bien vouloir faire le nécessaire. Et nous avons demandé aux éditeurs, aux auditeurs, de bien vouloir soutenir cette initiative en montrant à Jean Ferré que de très nombreux auditeurs sont contents d'entendre Bernard Lugan une fois par mois. Et la radio est en fait, par définition, pour ces auditeurs. Je pense que le jour où suffisamment d'auditeurs auront fait savoir qu'ils seraient contents d'écouter une fois par mois une émission régulière de Bernard Lugan, pas forcément concédée sur la tranche horaire de Serge de Becquet, eh bien, la direction de la radio, éclairée et démocratique et attachée à plaire aux auditeurs, sinon à leur complaire, fera le nécessaire. Donc je vous invite, monsieur Anastase Bornbovitch et tous vos pareils, tous les Anastases de la Terre et tous les Bornbovitch aussi, à écrire, au lieu d'écrire des choses insultantes à Serge de Becquet, Radio Courtoisie, d'écrire des choses aimables et des propositions constructives à monsieur Jean Ferré, qui est directeur de Radio Courtoisie.
Je rappelle à la direction de Radio Courtoisie que le professeur Lugan a reçu le prix d'Audet. Ça peut peut-être aider.
Voilà.
Puisqu'on en parle beaucoup en ce moment.
Absolument.
Du prix
d'Audet. Voilà. Alors, je voudrais quand même. Tiens, vous y êtes, Marquis, là. Vous allez voir, c'est pour vous, ça. Je reçois un émail. On dit un courriel aussi. Monsieur qui signe salut. Je ne sais pas si c'est sa signature, mais comme avant il met à bon entendeur, puis dessous salut, je me dis.
C'est son prénom peut-être, salut. Peut-être, salut oui. À bon entendeur.
C'est fort alors.
Oui, peut-être.
Bien, alors donc voilà ce qu'écrit ce monsieur. Madmae, monsieur. Madmae, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin, Madmae, monsieur. Faisant suite au multisem de votre équipe face à mon indignation, je tiens à vous signaler que le CSA a été saisi pour utilisation de propos racistes sur une radio et une plainte a été déposée en bonne et due forme. Et pas non, en bonne uniforme. Copie de notre dernier mail restée sans réponse. Je tiens sans cesse à vous faire part, PRR, de mon grand étonnement, insolène, de ce que l'on peut, SE, que l'on peut entendre sur vos ondes, et plus particulièrement du raïxme que vous pouvez prôner à l'antenne. Je me réfère à votre journaliste fier avec un T de raconter son anecdote avec deux N d'hier soir lors de son passage à l'église de Stache Paris où il a croisé un, ouvrez les guillemets, nègre, fermez les guillemets, selon son expression T-I-O-N, ayant un chapeau. Pas l'expression, mais le nègre, je suppose. Hein. Et ne s'étant pas décoiffé. De plus, votre collègue fut si fier, F-I-E-R-T, comme chacun sait, de mentionner qu'il lui est allé demander de se découvrir avec une E. Le commentaire suivant fut le désir éventuel de mettre une loi LOIE sur l'interdiction du port d'objets ostentatoires, non religieux sans X, dans les lieux IS de culte. Comme ceci est drôle, en arrière-fond, d'entre l'animateur imiter la voix d'un Africain. Voilà. Tout ceci ne reflète, de F-L-E-T, donc pas du DU, une radio qui se veuille de droit, voire même parfois extrême droite, et même catholique. Je tiens à rappeler un seul P, que le catholicisme est une religion de tolérance. En conclusion, une mention de ces faits sera faite auprès des hautes instances responsables de l'éthique radiophonique. Poilot, non, il n'y a pas, pardon, ça c'est moi qui ajoute. Et alors c'est pas signé, mais ça vient de HLV Consultant. Alors, je me suis demandé ce que vous pouvez dire, et j'en ai conclu que ça devait être orthographe. Lamentablement violé. Je vois pas d'autres. Je sais pas à quel titre on peut consulter ce monsieur, mais certainement pas pour son orthographe. Voilà. Donc, si vous voulez répondre à ce monsieur, contact@hlvconsultant.com. Vous pourrez lui donner une leçon d'orthographe amusante et je lui l'invite à faire avec l'original du papier qu'il m'a envoyé l'usage qu'on fait habituellement avec le papier de mauvaise qualité. Je ne m'en dirai pas plus.
Oui, ben,
ouais. Pour envelopper le poisson, tout le monde.
Tout à fait.
Ce qui m'amuse beaucoup, vous voyez, c'est cette espèce de mentalité flicarde et cafarde qu'ont certains personnages. On dirait que leur drame dans la vie, c'est de ne pas avoir vécu à l'époque de la terreur, de ne pas avoir été à la GPU ou NKVD au temps de Staline, de ne pas avoir été au sac au temps de De Gaulle. Alors ils cherchent, ils ont trouvé. Alors ils disent peut-être que en dénonçant un raciste. Alors qu'est-ce qu'on a dit de raciste ? On a employé le mot nègre. Il est évident que ce monsieur n'a jamais ouvert un dictionnaire de sa vie. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder son orthographe. Donc il ne sait pas que le mot nègre est dans le dictionnaire. C'est pas du tout considéré comme une insulte. C'est tout simplement la désignation d'un type humain et en plus. Tous les Africains s'appellent entre eux nègres. Les Antillais se disent c'est un bon nègre ou c'est un méchant nègre. Et il y a même un inventeur, un poète célèbre qui a célébré les mérites de la négritude.
Qu'est-ce que c'est que la négritude
sinon la civilisation des nègres. Voilà. Donc, monsieur, je vous invite de rechef à faire l'usage que vous
voulez. Je rappelle que le nègre m'avait répondu, j'en ai rien à foutre de porter un chapeau dans une église et je tends.
Voilà.
Et celle-là oubliée.
Oui, ben, il ne pouvait pas le savoir, le pauvre homme. Parce que jamais aucun nègre n'a dû lui faire une pareille proposition. Sinon, on échange le son d'orthographe, qui était, à mon avis, de l'argent foutu en l'air. Voilà. Je voudrais parler maintenant de M. Chirac, parce que je suis quand même soumis à... Je m'interroge. Je me demande s'il ne se fout pas un peu de nous, quand même. Hein? Non, parce que... ils nous disent que, par exemple, à propos des otages, vous avez vu ça? Ça vous intéresse pas?
Si, tout à fait.
Ah, pourquoi vous lisez autre chose?
Je ne lis pas autre chose. Je regarde.
C'est incroyable.
Vous m'avez donné.
C'est
je les survole en vous écoutant. J'ai des yeux et des oreilles.
Ah, vous ne serez pas puni cette fois-ci. Mais n'y revenez pas. Autrement, c'est au coin les mains sur la tête.
Donc je suis bien en peine.
Je disais, à propos des otages, vous vous souvenez tous, alors je suis fou, que deux jours après la prise d'otage de messieurs Malbruno et Chesneau, on nous a dit qu'on avait des nouvelles et qu'ils étaient en bonne santé. Vous vous souvenez de ça?
Oui, oui.
Or, c'était ça, fin août. Parce que j'étais encore fin août, début septembre. Enfin, j'étais encore dans mes Pyrénées-Orientales préférées. Et voilà qu'aujourd'hui, on nous apprend qu'on n'avait absolument aucune nouvelle de ces gens-là jusqu'au 18 septembre. Donc ça veut dire qu'entre le moment où ils étaient enlevés et le 18 septembre, date à laquelle on a eu des nouvelles officiellement, le gouvernement affirme avoir eu des nouvelles, toutes les fois où on nous a dit ils vont bien, ils sont en bonne santé, on n'en savait rien, c'était des mensonges. Et là, on apprend par la même occasion qu'hier, M. Raffarin, c'est quand même absolument incroyable cette histoire, il a fait venir les représentants des partis politiques à l'Élysée, comme d'habitude, sauf le représentant d'un des partis les plus importants en France. Il les a fait venir et il leur a montré une cassette vidéo qu'ils avaient depuis 3 semaines pratiquement et dont même les parents des otages n'ont pas été informés. Mais qu'est-ce que c'est que ces voyous? Mais c'est incroyable, ça.
Vous êtes sûr que les parents n'étaient pas...
Non, non, ils ont dit, les parents l'ont confirmé, et personne n'était au courant. Mais moi, on me fait un truc comme ça, mais je vais le gifler, cette espèce de nain de jardin. Ce Quasimodo. Mais enfin, c'est incroyable, quoi. Ils se permettent n'importe quoi, maintenant. Bon, alors, il y a ça. Après, il nous dit, sur la Turquie, vous allez avoir un référendum. Dans 15 ans. Qu'est-ce qu'il en fait? Où il sera dans 15 ans? J'espère qu'il sera mort. C'est parce que si... Oh là là. Enfin, on a quand même une chance, c'est qu'il risque de ne pas se... Il est possible qu'ils ne se représentent pas. Non, non, vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont en train de concocter. C'est l'excellent camarade Ratier qui a découvert ça et qu'il publie dans sa lettre confidentielle Faits et documents. Ces gros malins, ces espèces de voyous mafieux déguisés en parlementaires, ils sont en train de concocter une loi au terme de laquelle tout membre de droit du Conseil constitutionnel bénéficiera jusqu'à la fin de ses jours d'une immunité parfaite. Or, l'ancien président de la République étant par définition membre du Conseil constitutionnel, tous ceux qui veulent demander à monsieur...
Il n'y a plus de nécessité de présenter.
Tous ceux qui veulent demander à monsieur Chirac, dites donc Chirac, comment vous avez fait pour bouffer 4 millions de... c'était 4 000 euros par jour de bouffe
à la mairie.
À la mairie de Paris.
4 000 francs, je crois.
Non, 4 000 francs, attendez,
4 000 francs de moutarde.
Vous invitez Chéri Guest à déjeuner, vous sortez une bouteille de champagne et un foie gras, ça y est, 4 000 francs, c'est bouffé. Non, non, docteur, vous êtes vraiment trop candide, franchement.
Monsieur Beckett, je voudrais rappeler que les mêmes qui sont en train de voter cette affaire sont montés au créneau dans tous les journaux quand, il y a quelques années, le Parlement chilien a voté pour le général Pinochet une immunité parce que c'était l'ancien chef d'État. Là, ça choquait. Mais là,
ça ne vaut pas pour Pinochet, mais pour Pinocchio, ça fait marcher. C'est ça. Et puis, il a pris la parole récemment. On peut dire du mal de lui parce qu'il est au Vietnam en ce moment. Il aime bien aller voir les gens qui ont tué des Français. Il a fait ami avec ce macro de Bouteflika, là. Espèce d'immonde.
Non, macro, c'est.
C'est lui faire beaucoup d'honneur.
C'est pas gentil pour les macros.
Il est allé faire des faveurs à Bouteflika. Maintenant, il va faire des faveurs au Viet. Moi, je n'ai rien contre les Viet, je les aime bien plutôt. Enfin, pas le régime actuel, qui est un des derniers régimes communistes violents et staliniens de la planète. Simplement, ce qui est formidable, c'est qu'on les trouve bien parce qu'au stalinisme, ils ont ajouté le capitalisme prédateur. Ils sont arrivés à lier les deux trucs. C'est comme les Chinois. C'est-à-dire qu'ils exploitent leur peuple. C'est formidable quand on y pense. Et ça fait 70 ans qu'ils font crever les gens de misère.
Dialectique.
Ah ouais, mais c'est fabuleux. Ça fait 70 ans qu'ils font crever les gens de misère, qu'ils font crever les gens de censure, de dictature, etc. Et d'un seul coup, ils disent, maintenant, on va vous faire bosser, les gars. Vous allez être esclaves au service du capitalisme. Bon. Et Chirac va leur dire, on pourra peut-être vous vendre 2-3 trucs.
Il est peut-être parti prendre des leçons.
Oui, c'est possible. Alors, en tout cas, il est là-bas, donc on peut en dire du mal. Et juste avant, il était, je ne sais pas où, il a fait un grand discours. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah oui, il a qu'à rentrer, mais il faut qu'il se signale à la France. Il a fait un grand discours, je ne sais pas où, sur la pauvreté dans le monde.
À New York, l'ONU, oui.
Ah oui.
Où il a dit qu'il fallait aider les pauvres parce qu'ils ne sont pas riches. Alors je voudrais quand même, je ne sais pas si vous regardez tous la télévision de temps en temps, mais il y a une chose vraiment intéressante qui s'est passée. C'est qu'il y a quelques jours, dans une émission qui doit s'appeler, je ne sais pas... Capital, peut-être, ou envoyé spécial, ou quelque chose comme ça, ou une émission d'enquête, il y a eu un reportage sur l'hôtel le plus luxueux du monde. Le plus luxueux du monde, qui est dans une île privée, au large de la Sardaigne, je crois. Tout ça est protégé, des centaines de flics, mercenaires, enfin non, pas des flics officiels.
L'armée, quand même.
Et il y a un hôtel au centre de ce truc, au milieu de demeures somptueuses, etc. Il y a un hôtel où la suite présidentielle, le royal, je crois, vaut 19 000 euros par jour. 19 000 euros par jour. Alors, j'ai essayé de faire des calculs. Ça fait 13 briques, ça, hein, c'est ça ? 130 000 francs, à peu près. Et alors, le journaliste dit, vous avez eu des... Vous avez, je suppose que vous avez des clients célèbres pour cette... Et le gars dit, oui, on a des clients, on a eu Mel Gibson qui est venu, on a eu, je ne sais plus quelle actrice américaine qui est venue aussi, et puis quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Chirac. Chirac et Madame Chirac, qui sont venus passer 15 jours dans la suite présidentielle, avant même qu'il soit président de la République. Il était très content de nous raconter ça. Autrement dit, ce type qui, il y a 15 jours, nous faisait des discours en disant, il faut donner de l'argent aux pauvres parce qu'ils ne sont pas riches, lui va dans des hôtels à 130 000 balles la nuit, il passe 15 jours. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire, ça?
Mais passion, d'où il tient ce fric? Il a une passion pour les palaces, c'est ça.
Mais
c'est...
D'où vient l'argent?
Parce que payé sûrement liquide.
Non, mais d'où vient l'argent? 130 000 francs, c'est probablement ce qu'il reçoit par mois.
C'est peut-être pour ça qu'elle a été obligée de faire une émission de télévision pour boucler ses fins de mois, elle.
C'est pour ça qu'elle avec des sacs à patates.
Oui, mais de chez Dior.
Ils ont tous les culots, ces gens. Tous les culots.
Aucune vergogne.
Alors, je vais sans doute avoir un procès. Je signale aux amateurs de spectacles gratuits que j'ai déjà un procès qui aura lieu le 26 octobre à Paris, à la 17e chambre, pour, je vous laisse deviner. Alors, un petit effort d'imagination. Voilà, bravo, voilà, monsieur Leperlier.
Oui. Si
bon, monsieur Leperlier a gagné. C'est mon 76e.
Heure du micro.
Ça doit être à 14h, je pense.
Prix des places.
Ah, c'est gratuit.
Ah bon.
Entrée gratuite.
17e chambre, non?
Oui, 17e chambre.
Je serai reparti.
Ah, bah, écoute, pour moi, vous serez dans un pays libre.
C'est pas une chambre à X millions de.
Non, c'est pas une chambre à 130 000 francs la nuit. C'est plutôt une chambre à 5 000 euros.
14h.
Voilà. Bon. Je crois que c'est 14h, mais je vous l'indiquerai téléphoniquement.
Oui, je suis absolument à y aller pour ma chronique.
Mais je crois, voilà. Ça sera le dernier salon long. Quoi. Quand l'abbé Laguérie aura fini de confesser Franck, il pourra peut-être entrer dans le studio.
C'est pas pour demain.
Non. Bon. Il peut entrer, oui, c'est ça. Entrez donc, monsieur Laguérie. Monsieur l'abbé Laguérie. Monsieur Laguérie. Je considère qu'il est déjà exclu de l'église. Non. Comme si ça ne suffisait pas. Ah, si vous trouvez une chaise, vous pouvez vous asseoir, on vous prêtera un micro. Oui, oui.
Ils disent tous.
Alors, si ces messieurs, si le docteur Dor n'y voit pas d'inconvénient, et monsieur Duchalard aussi,
oui.
Je vais donner la parole tout de suite à l'abbé Laguérie qui veut faire
un.
Je ne savais pas que vous alliez venir. Hein,
je suis confus.
De plus en plus à un parachutiste.
Je suis confus. Je passais à 20 minutes de là et je me suis souvenu qu'on était mercredi, qu'il y avait Serge Becquet, et comme il y a un événement artistique considérable qui se passe, c'est les chœurs de Saint-Éloi qui sortent un disque.
Vous êtes finalement, vous êtes reconverti dans les relations publiques. Alors
la musique, maintenant, carrément.
Ça adoucit les mœurs.
Ça adoucit les mœurs, je crois que c'est le moment ou jamais, car si l'été a été rude, vous voyez, l'automne est artistique.
Ouais.
Voilà. Alors, il faudrait signaler à nos auditeurs ce disque compact qui vient de sortir, avec, c'est les chœurs de Saint-Éloi, c'est la chorale de Saint-Éloi. Il y a même quelques morceaux de flûte par la l'abbé Laguérie lui-même, c'est sous la direction de l'abbé Laguérie, et comme je sais que si ma flûte est en argent, Serge est en or, je me suis permis
très
de
bien.
Frapper, j'ai mis la lumière et je suis rentré.
Vous avez une flûte en argent?
J'ai une flûte en argent qui m'a été offerte.
Donc les bruits qui courent, c'est assez fondé finalement, vous êtes un homme riche.
Ça m'a été offert, quoi. J'ai la flûte, mais c'est bon, il est payé. C'est les amis.
Bon, alors, c'est un document extraordinaire, parce que Saint-Éloi, c'est l'église que vous avez en quelque sorte relevé de ses ruines.
Acquis de haute lutte et relevé un peu de ses ruines et de ses squatteurs, par un combat gigantesque donc à Bordeaux avec la mairie. Donc ça se passe très bien. On a créé.
Parlez plus bien.
Ça se passe donc très bien à Saint-Éloi. L'église est pleine et il y a une très bonne chorale d'une trentaine de personnes. Ce sont des amateurs. Mais on a créé ça il y a 4-5 ans et vous verrez que c'est pas les chœurs de Cambridge, je vous parle quand même.
Non mais attendez, ne dites pas de mal, il y en a d'autres qui s'en occuperont, ne l'inquiétez pas.
Mais je pense que c'est quand même d'une assez bonne qualité. Voilà. Donc si on pouvait avoir un tout petit extrait.
Ah ben ça dépend de Franck, s'il est d'accord, on va écouter
Je vous propose d'écouter très rapidement Laudationem Salvatorem de Buxtehude, 1637-1707. Il y a une entrée à la flûte, vous entendez la flûte.
Bon, voilà.
Et puis ensuite, les chœurs arrivent. Et après, je m'en vais parce que
après, les chœurs arrivent.
Les chœurs arrivent, c'est cher. Je vous donnerai simplement les références de ce disque et je m'en irai en vous remerciant.
Merci de votre visite éclair, monsieur.
Buxtehude, Laudationem Salvatorem, numéro 17 sur le disque.
Je vous trouve sévère, monsieur l'abbé, de dire que c'est pas digne des grands cœurs, c'est superbe. Hein.
Écoutez, c'est propre, c'est en place.
La flûte, c'est plus contestable, c'est plus moyen, oui. Ça vous apprendra.
Ça m'apprendra à faire de l'autocritique. Allez, on va se vanter alors. Écoutez, deux choses. La première, c'est que ce disque est publié avec tout notre cœur, comme vous l'avez entendu, pour la restauration du grand orgue. Donc l'orgue que vous entendez n'est pas encore le grand orgue, évidemment. Il ne pouvait pas servir à cet effet. Donc en achetant ce disque, vous avez toute la polyphonie baroque contre la réforme catholique. Vous aidez l'église Saint-Éloi. Vous inaugurez la restauration du grand orgue. Et vous rincez très agréablement l'oreille. Alors il ne reste plus qu'à vous donner l'adresse où vous commandez massivement ce disque. Je laisse la parole à madame, peut-être.
Madame Totor, on l'appelle.
Les carotteux poussent. Alors, les chœurs de Saint-Éloi, c'est une chorale d'amateurs, donc, à la flûte, monsieur l'abbé Laguéry, vous le commandez à l'association Église Saint-Éloi, 40 rue Paul-Louis Lande, L-A-N-D-E, 33 000 Bordeaux, et vous envoyez 15 €.
Voilà.
Au lieu que la FNAC, ça serait
port, on va dire 17 avec le port, mais c'est pas grave.
Ah, ça y est, ça augmente. Ah,
voilà, ça augmente déjà.
Et vous venez de me donner une idée, là, en disant que l'orgue qu'on entend, c'est pas l'orgue du...
C'est
évidemment,
l'orgue
puisque c'est le disque est supposé financer la restauration de cette orgue. Il y aurait un truc à faire, ça serait de vendre un disque, comme ça, un CD, totalement muet, en disant ce CD totalement muet est destiné à financer l'achat de l'orgue
qui vous donnera
avec lequel sera enregistré le concert.
Le
concert.
Pourrez...
Hein, c'est pas une bonne idée, ça, voilà.
Pas bête.
Je vous en fais cadeau à titre de contribution.
Et pour notre ami Serge.
Oh, on va le laisser à la radio, mais il est très beau. Merci, voilà. Monsieur l'abbé Laguéry.
Et merci.
On ne parle de rien d'autre.
Non.
Voilà. Pour l'instant.
C'est calme. C'est une récréation artistique.
Sur le fond des, tout est calme sur le fond des trous.
Avec les chœurs de Saint-Éloi. Merci infiniment.
Merci. Au revoir, monsieur l'abbé. Voilà. Alors, docteur, ne l'antiponons point. Prenez la parole pour nous dire.
Voilà. Alors, oui.
Quel mauvais coup vous préparez encore?
Oui, ce sera à la fin. Ce sera le 23 octobre. Donc, au Chêne, ce coup-là. Nous avons été plusieurs fois au Chêne. Donc, ce sera à 14h30 le samedi. Je crois que c'est le début des vacances. Alors, peut-être ça tombe pas très bien. Mais enfin, avant de peut-être partir en vacances, venez manifester. C'est tellement important. Donc, André Mignot, 24h30 le 23 octobre. Mais auparavant, le 17 octobre, nous serons avec la Fraternité Saint-Pidis à Espace Austerlitz, toute la journée de 10h à 18h. Là, nous aurons un stand et le thème, c'est le respect de la vie. Alors, voilà, nous invitons tous ceux qui voudraient, nous pourrons donner des documents, enfin, parler, et dans un cadre et une ambiance tout à fait religieuse et agréable, certainement. Alors, le 16, c'est mon voisin, bien sûr, nous allons à Renaissance catholique, il vous dira tout ça. Et le 12 octobre, alors je vous recommande, nous avons une adoration au Sacré-Cœur de Montmartre, l'inscription est à 20h45, il faut aller derrière derrière l'église et s'inscrire, il y a les sœurs, et vous savez qu'on s'inscrit pour la nuit, et on peut adorer une ou deux heures, parfois même plus, moi je dépasse difficilement deux heures, je veux dire, et on peut se reposer dans des box, enfin, les choses se passent bien, nous avons l'habitude de, mon Dieu, une sainte habitude, j'espère, qui sera même plus rapprochée de monter, c'est indispensable. Alors, quelques mots, si vous me permettez, pour, nous avons un petit journal maintenant. Oui, nous n'avons pas le libre journal. Nous avons quelque chose de, une concurrence bien modeste.
Vous avez bien réussi à me piquer une douzaine de lecteurs encore.
Bien, une concurrence bien modeste parce que nous c'est 10 €, je dirais. Vous voyez, c'est pas terrible comme dépense. Et puis il y a 4 numéros par an. Avec cet avantage, c'est que vous serez au courant de ce que nous faisons ou nous faisons pas peut-être, pas assez. Et voilà, donc vous saurez que nous allons dans telle ville à telle époque, à telle heure. Ça pour nous c'est important, pour vous aussi j'espère. Donc n'oubliez pas, c'est le docteur, alors je vous donne les coordonnées, c'est le docteur Perel, la promenade, de Luc Perel, P-E-2-R-E-L, la promenade, c'est l'endroit où il habite, 53-230, Cossé le Vivien, C-O-2-S-C, le Vivien. Et le titre de la publication, SOS Tout Petit Actualité. Alors, laissez-moi vous dire encore deux ou trois petites choses. Il s'est passé tellement de choses cet été. des choses consternantes. Vous savez que le 9 juillet, la bioéthique, le programme de bioéthique, on se demande encore comment ça s'appelle bioéthique. Eh bien, le Sénat, députés se sont mis d'accord pour permettre l'utilisation des embryons surnuméraires. Ils étaient là, dormants dans le froid. Je ne sais pas d'ailleurs très bien dans quel état. Donc l'expérimentation est permise. Qu'on se rappelle à ce sujet cette phrase prémonitrice d'un ancien grand maître de la Grande Loge de France, il l'a été deux fois, c'est Pierre Simon, et disant ceci: la vie n'est plus un don de Dieu, elle est un matériau qui se gère. La chose a été écrite en 1979, nous avons maintenant la réalisation, donc faites le compte, entre 79 et maintenant, nous avons la réalisation mot pour mot de ce qui est fait. Donc c'est le contraire même de la morale, n'est-ce pas? C'est l'absence de morale, c'est la bioéthique, enfin, je ne sais pas comment dire. Alors ça c'est...
C'est-à-dire que si le docteur Mengele avait dit ça, on aurait trouvé que c'était très très mal, mais comme c'est le docteur Simon, c'est...
Voilà, c'est une phrase en or, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de mépris plus grand du créateur et de la création, il n'y en a pas. La vie n'est plus...
Vous le dites avec l'accent, vous allez voir ce que ça devient. La vie n'est plus un don de Dieu, c'est un matériau qui se travaille.
Un matériau qui se gère.
Oui, et qui se gère. Ramasser les dents en or et les cheveux pour faire des tapis.
Oui, ah, c'est affreux.
C'est bien ça.
C'est abominable. Et alors, vous savez que nous avons manifesté à Toulon cet été, c'était le 28 septembre. On était devant l'hôpital Brunet, un petit peu en dehors de Toulon, et ils avaient arrêté en juillet pratiquement de faire les avortements. Ils en font 400 par an. Et là, ils avaient pratiquement arrêté, les médecins étaient partis, et alors c'était la panique au planning. Et dans plusieurs endroits, vous savez qu'à Marseille, c'était pareil aussi, il y avait une crise générale de l'IVG. Les médecins ne voulaient plus en faire, le délai est trop long, et puis franchement, c'est pas ragoûtant. Ça. Alors du coup, une rallonge. Alors là, vous êtes au courant, c'est le 28 juillet, journal officiel, signature, ça c'est le plus étonnant, enfin moi ça m'a saisi quand même. Vous avez donc tous les détails, c'est entre 200 et 300 euros, et donc une gratification de maintenant de 29% pour les médecins qui feraient ça. C'est signé donc par le médecin ministre de la Santé, d'Ouste Blasi, signé par le ministre du Budget et des Finances, vous avez compris, Sarkozy. Il y a la signature de Bussereau, qui je crois le responsable de la fonction publique, et puis d'une dame, ministre, qui s'occupe de l'Outre-mer. C'est valable aussi pour l'Outre-mer. Alors, la dernière chose, je ne veux pas insister, mais le 15 août, vous parliez de Jacques Chirac, je trouve que ses dépenses dans des hôtels... incroyables, je dirais, sont largement dépassés, en horreur, en véritablement l'horreur. Quand le 15 août, il a eu le front, on peut dire ça, mais vraiment, est-ce qu'il a rougi à ce moment-là? Quand il a eu le front de dire, je voudrais citer de mémoire, la sauvegarde, je cite Chirac, le 15 août, la sauvegarde du plus faible, du plus fragile, et du plus démuni constitue le devoir et un impératif moral qui transcende les frontières. Comment cet homme a le front de parler de sauvegarde du plus faible, du plus petit, alors qu'il est à l'origine, on peut dire, pas tout seul bien entendu, mais un des plus éminents, puisqu'il était là en 1975 avec la loi Veil, il était premier ministre, puisqu'il était là comme président avec la loi Aubry, donc du 4 juillet 2001, tu dirais. La culture du mort, ce sont des millions et des millions et des millions de morts. On va fêter le 30e anniversaire de cette loi infâme. N'est-ce pas? Et lui était un chef d'orchestre, on ne peut pas dire le contraire. Donc, dire une chose et faire exactement le contraire...
Jean-Paul II, allô?
Devant Jean-Paul II, je dirais qu'il est difficile, de mentir davantage.
C'est la base même de la politique.
Ça, je crois qu'une phrase pareille, il devrait démissionner dans l'heure, n'est-ce pas? Nous devrions le démissionner. Il n'a plus le droit de commander la France, il n'a plus le droit. C'est un assassin, c'est un criminel, et en plus, c'est un hypocrite dont, je dirais... enfin, je n'ai jamais vu une hypocrite. L'hypocrisie des pharisiens,
si les mensonges,
c'est peu de choses.
Chirac serait une toupie. Vous avez...
Ah, le malheureux. Il faut prier pour lui. Vous savez que notre Seigneur a dit « Aimez vos ennemis ». Eh bien, je crois que je vais aimer Chirac.
C'est le dernier en France. C'est bien, docteur.
Voilà, merci. Que Dieu nous garde.
Merci.
Est-ce que vous pourriez répéter...
Alors, attendez, on va résumer.
Parce que, résumons, pour être bref, le journal...
Le 12 octobre, adoration... Adoration au Sacré-Cœur.
Le 12 octobre, Adoration au Sacré-Cœur.
À 20h45.
À 20h45.
Le 17 octobre, la journée de la fraternité à Austerlitz.
Alors,
Austerlitz,
c'est-à-dire
le 17 octobre.
De 10h à 18h.
De 10h à 18h.
Ça se passe où?
Espace Austerlitz.
Où on a fait la grande journée du livre de Radio Courtoisie.
Fraternité Saint-Pierre.
Mais vous n'êtes pas venu, vous ne pouvez pas le savoir, vous.
Je ne sors plus, moi je suis grasse.
Oh, pauvre femme.
Alors, le 23 octobre.
Clinique du Chesnay.
Clinique du Chesnay. Tout le monde connaît, je pense, André Mignot. Le 23 octobre, on y était souvent. Hôpital André Mignot, c'est ça.
Donc, Et tous les jours, envoyez un abonnement de 10 euros.
Alors ça si vous pensez à notre vue, vous aurez des surprises, vous verrez. Luc Perrel est très animé, hein, c'est un.
Alors attention.
Luc Perrel, la promenade.
Le docteur Luc Perrel, la promenade, ça c'est facile.
53 230.
Cossé, CO2SC, le Vivien qui était un compagnon parité de Charlemagne.
Voilà, merci docteur.
Merci.
À bientôt.
Merci de vous voir. Etienne, j'ai à côté de moi Etienne, et bien sûr, nous serons avec quelle joie nous allons là-bas.
Etienne Duchalard, qui va nous expliquer comment on peut participer à cette journée de Renaissance catholique, la journée de la vie, qui en est à sa.
La marche pour la vie.
La marche pour la vie qui en est à sa 40e version.
14e.
14e, c'est pas mal quand même, ça tient le
coup. 14e. Et cette marche pour la vie organisée par Renaissance catholique aura lieu entre Notre-Dame des Victoires et le Sacré-Cœur de Montmartre, où il y aura un salut du Saint-Sacrement. Alors, c'est le départ réunion à 17h30 devant Notre-Dame des Victoires, et ensuite départ vers 18h30, après une cérémonie de prière de départ, et marche au flambeau, donc jusqu'au Sacré-Cœur. Alors, c'est particulièrement important cette année parce que c'est les 30 ans de la loi Giscard-Chirac-Veil, puisqu'elle a été votée le 20 décembre 1974 et promulguée en janvier 1975. C'est pour ça qu'on cite 74 ou 75 comme étant les dates de la loi sur l'avortement, entre le vote au Parlement et la promulgation. Donc 30 ans après, c'est 9 millions de morts, donc on aimerait qu'il y ait 9 millions de personnes dans la rue, parce que chaque année il y a environ 300 000 avortements, officiellement 220 000, mais en réalité les cliniques et hôpitaux, et surtout les cliniques dépassant leur quota d'avortement, on peut dire 300 000, sans compter, le docteur Dor redit souvent, tous les morts par le stérilet depuis 1967 et la loi ne vient. Parce que ce sont aussi des avortements avec le stérilet. Donc, pour ces 30 ans, nous espérons qu'un maximum de gens viendront et militeront ensuite pour la vie. Donc, trois cardinaux ont apporté leur soutien. Le cardinal Jos, qui est flamand et qui était au séminaire avec Jean-Paul II, le cardinal Stickler et le cardinal Gagnon, qui vient de nous envoyer une très belle lettre qui sera lue avant le départ de la marche. Une très belle lettre de soutien depuis le Canada et qu'on n'a pas pu mettre sur notre tract puisqu'on l'a reçue il y a 8 jours. Mais donc, nous avons trois cardinaux. Quelques évêques français qui nous soutiennent. Mais enfin, on aimerait que tous les évêques viennent avec nous, que comme les évêques américains, on demande que les hommes politiques catholiques ne puissent plus communier quand ils prônent l'avortement. Et à ce moment-là, ça redonnerait du punch au combat pour la vie contre la culture de mort telle que le pape l'a développé, l'a montré dans ses encycliques.
Vous nous avez cité des évêques, vous nous avez dit donc les évêques.
Il y a
Gagnon qui est canadien.
Oui, québécois. Gagnon, le cardinal Stickler qui est autrichien, qui était l'archiviste du Vatican, et bibliothécaire, et puis le monseigneur Joss, qui est cardinal, qui est flamand, et qui était au séminaire avec Jean-Paul II.
En France,
il n'y a pas de cardinaux. Il y a Monseigneur Katenos qui nous a envoyé une lettre, puis un ou deux autres, mais qui ne souhaitent pas être dans le comité d'honneur officiellement.
Ah oui, ils veulent bien, mais ils ne veulent pas être...
Ça se limite à deux ou trois.
Il y a de la foi, là, ensemble.
Voilà, il y a de nombreux pères abbés d'abbaye qui nous ont soutenus. Mais on aimerait que ça soit toute la conférence épiscopale des évêques
qui nous soutiennent. Enfin, c'est révoltant de voir qu'il n'y a pas un seul évêque qui ose bouger. Je vous souviens, mais ne le dites à personne. Je vous soutiens, mais ne le dites surtout à personne.
Je me pose une question.
C'est les pires des lopettes.
Vous avez raison, je pense que ça a un impact formidable de dire à partir de maintenant, tous les gens qui sont mêlés à cette histoire d'avortement ne peuvent plus communier. Mais si demain, dans une cérémonie solennelle à Saint-Pierre de Rome, je pense éventuellement au couronnement du prochain pape, si le président Chirac s'avance à la Sainte Table, on va lui donner la communion. Il ne faut pas rêver.
Ah ben, seul événement, ça serait qu'on lui dise « Retourne à ta place, voilà. Puis d'ailleurs, sors de cette église. »
Ne demandez pas aux évêques et aux cardinaux ce que le pape ne ferait pas.
À mon avis, Chirac ne prendrait pas le risque.
Oh, lui, qu'il faut alors.
Attendez, moi, Raffarin... j'ai jamais communié, même dans des cérémonies officielles.
Raffarin déclarait que lui, en tant qu'homme politique, communiait à titre privé, mais lors de il allait à une messe d'une cérémonie publique, il n'y communiait pas. C'était uniquement quand il était dans sa petite église du Poitou.
Mais qu'est-ce qui peut... C'était Poincaré qui payait le billet de train de sa femme, non ?
Oui, c'est ça.
C'est vrai que certains évêques, c'était du temps de Clinton quand il était président des États-Unis, lors d'un voyage en Afrique du Sud, avait assisté à une messe et l'évêque catholique lui avait donné la communion. Et il avait déclaré « Oh, j'ai pas osé refuser, c'est le président des États-Unis », alors qu'il savait pertinemment que Clinton n'était même pas catholique.
Bien, alors donc rendez-vous...
Le 16 octobre, marche, pour la 14e marche.
Et si vous voulez voir des évêques, c'est pas là qu'il faut venir. C'est vrai, non,
mais nous avons quand même
dans les boîtes de nuit.
Nous avons quand même le Sacré-Cœur où il y aura le Saint-Sacrement.
Vous racontez qu'il avait vu danser c'est pas un évêque.
Non, c'est pas un évêque, c'est un dominicain.
Ouais, oublions-le. Sinon, on va nous prendre
pour des...
Si on dit du mal des dominicains, on va nous accuser d'être des jésuites.
Ça me gêne pas.
Bien, eh bien, cher Étienne Duchalard, merci beaucoup. Tous les renseignements, si vous en voulez de plus,
Renaissance catholique, 89 rue Pierre Brossolette, 92-130 Issy-les-Moulineaux, téléphone 01 46 62 97 04.
Je signale d'ailleurs que les annales de la précédente université d'été consacrée à l'islam sont sorties.
Oui, ils sont sortis. Ils peuvent être commandés à la même adresse.
Commandés à la même adresse. C'est très bien fait. En dévie de la présence d'un article signé Serge Dewecket, le reste est très bon.
Ouais.
Rachète.
Merci.
À très bientôt, Étienne Gelard. Alors, je suppose que c'est une lettre apocryphe, mais elle est tellement drôle que je vais quand même... Un message apocryphe, mais il est tellement drôle que je vais vous le lire. Ça fait allusion à la lettre au message de monsieur l'orthographe lamentablement violenté, consultant. Alors, il dit, comme je fais beaucoup de fautes d'orthographe, j'avais demandé à un nègre de rédiger le texte du courriel. J'aurais mieux fait d'écrire moi-même.
C'est très joli.
Monseigneur Éric Aumônier a-t-il été prévenu? Je ne sais pas. Là, mais notre ami Duchalard est en partie, il ne peut pas. Mais je pense qu'il a été prévenu, parce que je crois que tous les évêques ont été.
À propos d'orthographe, je voudrais vous signaler qu'il y a un journal qui est fort bien écrit, fort bien relu. C'est le Libre Journal, 10 Place France Lys, 4 Place France Lys, Paris 10e. Excusez-moi, 4 Place France Lys, Paris 10e. C'est un journal où l'orthographe et le français sont respectés. En tout cas, il y a une grande tentative pour respecter. Ouais. Alors voilà, abonnez-vous.
Quand même, des correcteurs de pointe.
Oui, ben j'aime mieux pas trop en parler parce que je l'ai reçu, je l'ai relu et...
On a fait exprès. On a fait un numéro mal corrigé parce que Goffman n'était pas là, c'était juste pour lui montrer à quel point il est indispensable. Bien, chère Monique Beljanski, je suis très content, toujours très content de vous recevoir parce que vous êtes un personnage lumineux, en dehors de toute considération de fond. Vous êtes quelqu'un qu'on a plaisir à voir et à avoir en sa compagnie. Comme je sais que c'est aussi la vie de Le Perlier, je n'hésite pas à vous faire un compliment.
qui est mérité d'ailleurs.
Hein, j'ai pas entendu. J'étais allé réclamer un casque parce qu'on me dit toujours que je suis trop loin du micro. Alors je mets mon casque et oui, tout à fait, parfaitement. Et alors comme ça, on ne pourra plus me dire tu es trop loin, rapproche-toi.
Voilà. Bien, alors je vous ai demandé de venir ce soir pour faire plusieurs choses. D'abord un point sur la situation sur ce qu'on appelle maintenant dans partout l'affaire Beljanski. Deuxièmement, pour nous faire un petit topo sur l'avancement des travaux, parce que les travaux de recherche de l'association, que l'association Beljanski, que le CIRIS soutient, se poursuivent. Et puis, je demanderai ensuite à Jean-Paul de nous parler d'un projet qui est très avancé déjà, de deuxième tome d'un livre particulièrement iconoclaste, dont le titre était
« Savons maudits, chercheurs
exclus », qui est un livre de Pierre Lens, mais qui est... Pierre Lens, c'est quelqu'un que... C'est un petit ami, c'est quelqu'un que tu connais.
Oui,
très bien,
c'est quelqu'un, alors oui. Alors, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, et je lui ai dit, tu sais, de Beckett, je ne t'aime pas beaucoup à cause de tes idées, parce que tu te présentes comme un païen. Il m'a dit, mais bon sang, je suis passé sur Radio Notre-Dame, ils étaient très contents de moi, ça s'est très bien passé.
Non, je ne sais pas, je ne l'aime pas beaucoup, je ne le connais pas du tout, je n'ai jamais eu, j'aime bien ce qu'il écrit quand il parle de ces choses-là. Mais je veux dire que j'ai lu des textes de lui concernant la religion qui m'ont un petit peu ulcéré,
urtiqué.
Oui, non, mais c'est quelqu'un de très courageux et de très efficace dans ce qu'il écrit. Donc, ce n'est pas du tout un problème de personne. Je vais dire toute la vérité. J'hésite à le recevoir parce que. Mais maintenant que je sais qu'il est passé à Radio Notre-Dame, s'il a la manne d'imprimature, c'est bon, alors je le recevrai avec plaisir. Parce que moi, je suis assez réfractaire quand même à certaines positions antichrétiennes. J'aurais peur que ça se passe mal, voilà. Mais bon, on va faire un essai, on verra bien.
Oh, ça lui fera plaisir quand même, vraiment. Alors, le livre vaut qu'on fasse des sacrifices, parce que chaque fois que nous faisons une conférence avec Madame Beljanski, je parle des quelques livres, celui que j'ai écrit, ceux de Madame Beljanski, et je parle du sien. Et je dois dire honnêtement que quand les gens à la fin de la conférence prennent 10 livres de Beljanski, ils en prennent 30 du sien, et maintenant les gens en redemandent, parce que dedans on parle de Beljanski, mais on parle aussi de gens qui ont eu des problèmes identiques à Beljanski. Est-ce que les gens ont tendance à se dire, dans ce cas-là, quand on connaît l'affaire Beljanski, c'est toujours la même chose, les gens ont du mal à y croire. Est-ce qu'il n'aurait pas un petit peu le complexe de la persécution? Est-ce qu'il serait pas un peu paranoïaque? Alors non. Ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que c'est une politique générale en France, et d'ailleurs un peu partout dans le monde. Quand des gens bousculent des dogmes, quand des gens font avancer la science, ils ont des pires problèmes. Et puis surtout, si on touche aux intérêts de la chimiopharmacie, parce qu'on est en avance au plan scientifique et qu'on travaille dans d'autres domaines, eh bien, on a aussi les pires problèmes. Voilà.
Alors, on a eu un exemple récemment avec Loïc Leribaud, qui est une... Encore, je dirais, presque un pas de plus.
Qui a écrit d'ailleurs une page très bien.
Oui. Non, c'est très bon ce qu'il fait. Il fait du très bon travail.
En plus, il a beaucoup d'humour.
Puis il a de l'humour. Alors, je signale qu'il a maintenant un site internet.
Oui.
Qui doit être www.loïcleribaud. Mais ça, bon, on le trouve sur les moteurs de recherche sans difficulté. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un moteur de recherche, de toute façon, ils ne savent même pas ce dont je suis en train de parler.
C'est ma femme qui s'occupe de ça. Ah bon, j'avoue que dans ce domaine, je ne suis pas très doué. Oui, alors attendez, on a parlé de Leribaud, c'est très bien, mais j'aurais voulu cette petite partie d'émission seulement de laquelle nous allons parler, si vous voulez bien, qu'elle soit dédiée à M. Benveniste, qui est un extraordinaire savant qui vient de mourir à 69 ans. Et je me demande si ce n'est pas suite aux persécutions. Alors que simplement cet homme-là faisait des recherches sur le venin d'abeille, sur la dilution du venin d'abeille. Il s'est rendu compte que plus on le diluait, moins il était puissant, mais qu'à partir d'une certaine dilution infinitésimale, il redevenait puissant. Et alors ça a apporté de l'eau au moulin de l'homéopathie, moyennant quoi cet homme qui avait déjà été presque nobélisable, qui est un des plus grands savants de ce pays, s'est trouvé du jour au lendemain rejeté par la communauté scientifique. Il travaillait dans des baraques de chantier, il n'avait plus rien à sa disposition pour travailler. Alors est-ce qu'il n'est pas mort lui aussi comme Beljanski de chagrin
d'offense?
Voilà, c'est ce qu'on peut se demander, mais je suis persuadé que nous avons perdu, donc je crois c'est avant-hier, l'un des plus grands savants de notre époque.
Donc je voudrais ça rejoint un peu notre conversation. C'est pour ça d'ailleurs que c'est curieux de voir que quelqu'un comme Lens s'intéresse à ce genre de sujet, parce que le fond du problème, c'est un problème de transcendance. À partir du moment où on arrive à des résultats tellement stupéfiants je pense aux résultats qu'obtient Benveniste, qui sont des renversements de logique en quelque sorte, ou des résultats comme
ou plutôt la remise en place des idées logiques.
Voilà, c'est ça. La remise en place des idées logiques, mais contre l'apparente logique. Ou je pense aussi aux travaux sur le vitalisme, qui provoque l'hystérie collective du milieu scientifique et médical. Il y a un moment où la seule explication, c'est une explication transcendantale. On ne peut pas rester sans envisager une volonté bienveillante et une intelligence infiniment supérieure qui préside à tout ça. Et ça les rend fous, les gars. Ça les rend fous. Ils deviennent hystériques. Le vitalisme, c'est... Il y a un livre qui est paru aux États-Unis, notamment, qui s'appelle, je crois, le Blueprint, qui est un livre sur le rôle de l'électricité dans la reconstitution des membres amputés. Ça, c'est quelque chose de bouleversant à lire, mais ça a provoqué un véritable cataclysme dans le milieu scientifique, alors que les gars qui ont écrit ça sont de vrais savants. Eh bien, on les a accusés des pires crimes, et pour un peu, on les a renvoyés en prison. Donc il y a une vérité officielle scientifique qui est une vérité mercantile.
Et pour surtout pas entraver des intérêts.
Voilà, il y a une espèce de mafia de savants entre nobilisés, si j'ose dire. Je te file le Nobel, tu me donnes la Légion d'honneur, etc. Et qui préserve soigneusement ses prérogatives, ses préventes et ses intérêts.
Tout ce qui est du domaine biomagnétique est renvoyé dans les limbes par la science officielle. Il faut quand même dire que la médecine est sans doute la seule activité humaine qui soit laissée volontairement dans un état de retard par rapport à la science qui est à peu près d'un siècle. Ces gens-là ne veulent pas de l'atome, parce que l'atome, quand on arrive à la dimension subatomique, on découvre que l'immatérialité de la matière, on découvre que l'atome est d'abord énergie et on découvre l'aspect biomagnétique de la vie. On découvre donc que l'on peut trouver les maladies par des examens au niveau biomagnétique, mais aussi que l'on peut soigner en agissant directement au niveau de l'atome. C'est ce qu'a fait Prior, que vous connaissez, dont on parle justement dans ce premier livre, Savons maudits, chercheurs exclus, qui guérissait le cancer. Lui, c'était de manière empirique. Il avait découvert ça par hasard, en laissant traîner des oranges près de matériel électrique. Ces oranges ne pourrissaient pas, restaient en parfait état. À partir de là, il a cru trouver une solution pour protéger les légumes avant de les vendre, les conserver plus longtemps. Et puis, il s'est rendu compte qu'on pouvait aussi protéger l'être humain en jouant sur l'atome à partir de l'énergie électrique. Et en fait, si on commence à guérir de cette manière-là, c'en est fait de la sacro-sainte molécule de synthèse avec laquelle le lobby, que vous savez, de la chimiopharmacie, fait des fortunes. Ouais. C'est la raison pour laquelle ces gens-là laissent la médecine dans un état d'ignorance qui remonte à peu près depuis 1903. Je crois qu'on a déjà découvert la dimension subatomique et avec Poincaré, c'est cela. Avec Albert Einstein, mais tout ça pour la médecine.
Moi,
bien sûr, mais lui avait un lobby derrière lui
la vraie découverte qu'il a faite, c'est quand il a découvert les travaux de Poincaré.
Ben, malheureusement, je crois qu'on dit ça. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est de mauvais sens de le dire. Mais je sais que ça vient d'être écrit récemment. Tout à fait.
J'avais reçu ici dans cette émission il y a plus de 10 ans un jeune physicien nucléaire américain qui s'appelle Dean Mamas, qui est un type incroyable d'ailleurs d'intelligence, de vivacité, de culture et d'énergie, et qui avait expliqué comment monsieur Einstein avait volé tout simplement les travaux
de Poincaré, tout à fait.
Et puis naturellement il avait dit ça, vous n'en entendrez jamais parler, c'est le sujet tabou par excellence. Et là depuis quelque temps on en parle un petit peu. Je crois d'ailleurs qu'il y a à l'association des amis de Poincaré qui est boulevard Saint-Michel, je crois que c'est demain, une réunion pour parler donc du bouquin de Adlitz qui fait le point sur l'enquête sur les vols d'Einstein, le vol absolument caractérisé d'Einstein qui a piqué tous les travaux de Poincaré et qui a bâti sa théorie de la relativité restreinte à partir de ses travaux.
Donc tout ça n'est pas nouveau. J'ai un message qui me dit, est-ce à cause de votre croyance que vous faites très souvent une croix sur les messages d'auditeurs? J'ai pas l'impression de faire une croix sur les messages d'auditeurs, si?
Ben non.
Il y en a qui méritent d'être lus ou non?
Attends. Écoutez, alors là, c'est la catastrophe totale, parce que si je dis non,
voilà.
Si je dis oui, enfin, des deux
ouais, façons, c'est pour ça que je le dis comme ça.
Je suis brimée, là.
Ben, on va attendre un petit peu, peut-être. On rassemblera les questions, puis on les posera à nos invités.
Qu'elles viennent.
Je signale donc Henri Dumérac et François-Xavier Maxent ont fait leur entrée dans le studio. Henri Dumérac, bonjour. Je vous connais, mais je ne connais pas François-Xavier Maxent. Je vais vous demander de vous partager le micro, parce que là, on a vraiment un problème de matériel.
Bonsoir.
Alors, vous êtes, François-Xavier Maxent, ingénieur agronome, et non pas agronome, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'esprit de répartie et de finesse qui me caractérise, qui fait l'admiration du monde entier.
C'est très fréquent dans le milieu. Hein.
Voilà. Et vous êtes donc ingénieur agronome. Quel est votre cursus, comment?
Alors, j'ai un cursus un petit peu en dents de scie particulier, dans le sens où j'ai été à la faculté de Nancy. Au bout de quelques années, j'ai eu envie d'apprendre un vrai métier, donc je me suis tourné vers le milieu agricole, qu'un milieu finalement, quand on vient pas, quand on n'a pas des parents agriculteurs et qu'on n'habite pas la campagne, qui est pas très très connu, et finalement il y a des choses passionnantes à y faire, et il y a des véritables avancées à faire dans ce milieu-là. Donc j'ai repris des études BTS, ensuite j'ai travaillé comme conseiller agricole avant de partir au Maroc, et en revenant de passer donc un diplôme d'ingénieur.
Et vous, Henri Dumérac, vous êtes polytechnicien, je le dis tout de suite parce que moi j'ai une admiration, on amène un polytechnicien, je cherche tout de suite le bicorne. Et,
là, je suis décoiffé.
Petite chemise à carreaux, très stricte. Alors donc, en dehors de vos activités, de votre formation de polytechnicien.
Alors, c'est un intérêt pour développer les produits écologiques et les produits naturels, qui m'a conduit à choisir plutôt la voie des médecines parallèles de l'environnement en développant donc la découverte et la commercialisation de produits porteurs d'espoir.
Et une question personnelle, vos parents, ils ont pris ça comment quand vous leur avez dit avec mon bicorne, je m'en vais aller faire des médecines parallèles? Ça a provoqué quel genre de cataclysme dans la famille?
Il s'en doutait, se doutait d'un cataclysme depuis longtemps, et finalement il a été pris avec beaucoup de philosophie quand il s'est produit.
C'est bien. Alors, vous aurez la parole tout à l'heure, vous nous parlerez d'un produit que j'ai vu, que j'ai essayé, qui est assez étonnant. Il y a des effets tout à fait extraordinaire, notamment sur le plan de la cicatrisation. J'ai vu des résultats, c'est vrai qu'ils sont troublants, qui s'appelle Mégamine, c'est ça?
La Mégamine, oui.
Voilà. Bon, je reviens, alors, mais vous pouvez participer à notre conversation, puisque vous connaissez naturellement Monique Beljanski.
Bien sûr, bonjour.
Je crois que vous connaissez également Jean-Paul Leperlier, puisque j'ai saisi un clin d'œil complice, en tout cas, ou amical. Non, c'était simplement un salut, bienvenue.
C'est en plus.
Ah, mais alors, je suis chaleureux, parce que j'ai pensé que vous connaissiez.
Oui, moi aussi.
Ah, ben voilà.
C'est vrai qu'il y a une certaine chaleur ici.
Oui. Laquelle, vous parlez de la fraîche chaleur, ou bien
la chaleur, la meilleure. Donc, revenons, Jean-Paul Leperlier, revenons à ce projet, enfin, pas ce projet, à ce livre qui est en préparation, qui est sur le point de paraître.
Oui, c'est ça. Alors, le premier livre donc, a eu quand même pas mal de succès, et les gens nous disaient, mais vous n'avez pas parlé, par exemple, du professeur Delbet, vous n'avez pas parlé de Masqui, qui a découvert des choses extraordinaires.
Non, je voudrais que tu fasses, si vous, quand tu dis professeur Delbet, tu, en quelques mots, tu définis ça.
D'accord, oui. Alors, le professeur Delbet, pour une fois, c'est quelqu'un qui était quelqu'un d'important dans la médecine et qui, pourtant, a eu de graves problèmes. C'était ce qu'on appelle un mandarin de la médecine. C'était un grand chirurgien, assez intelligent pour dire, tout étant un grand chirurgien, la chirurgie est toujours un échec. Quand on commence à tailler, c'est vraiment que c'est un échec déjà de la médecine. Et cet homme-là s'intéressait au cancer. Et c'était l'époque où, dans les petits villages, il n'y avait pas de grande surface à côté. Et les gens se nourrissaient de ce qu'il y avait dans les alentours. Et il s'est rendu compte qu'on pouvait faire, en analysant dans les petits villages la mortalité, on pouvait recouvrir, au niveau de la France d'abord, puis de l'Europe, à peu près de manière exacte, la mortalité par le cancer et la quantité de magnésium dans le sol. Et il s'est rendu compte donc que le magnésium était un moyen extraordinaire de lutter contre le cancer.
Ah, c'est ça, c'était inversement proportionnel.
Tout à fait, parfaitement. Et alors, il a créé la Delbiase, qui est un produit donc qui mélange plusieurs sortes de magnésium et qui est extrêmement efficace contre le cancer. Mais à partir du moment où il a lui aussi, bien qu'étant un grand professeur, commencé à se donc présenter un peu en concurrent par rapport à la chimiopharmacie classique, eh bien, comme tout le monde, les portes se sont fermées, il a eu pas mal de problèmes, mais la Delbiase se trouve encore. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que la Delbiase est extrêmement efficace. Et le laboratoire qui a obtenu une AMM pour la Delbiase et qui l'a commercialisée, eh bien, a changé légèrement la formule parce que vraiment, c'était trop efficace. C'est aberrant, mais alors c'est vraiment ce qui s'est passé.
C'est une phrase que je cite toujours, la phrase de Lumière qui disait « Le cancer fait vivre plus de gens qu'il n'en tue ». C'était vrai à l'époque de Lumière. Maintenant,
je crois même avoir lu que c'est on voit ça dans un grand hôpital. Les étudiants en médecine l'ont marqué sur le mur. Effectivement, le cancer fait vivre plus de gens qu'il n'en tue.
Monique Belchanski, vous dites.
Oui, je voulais dire, dans l'oncotest, qui est un test qui...
Oncotest, O-N-C-O.
Ça vient de oncologie. Oncotest, que Mirko Belchanski avait mis au point. On pouvait visualiser très bien l'impact des substances dans la duplication de l'ADN cancéreux par rapport à l'ADN normal. Et là, on peut montrer l'importance des métaux, du magnésium en particulier, c'est ça qui me fait penser à prendre la parole pour ça, du zinc également, ce qui inhibe sélectivement la duplication de l'ADN cancéreux sans toucher à la duplication de l'ADN normal, c'est-à-dire que c'est un apport considérable pour le malade. Mais des tests actuellement, ce qu'on devrait dire, c'est que l'industrie pharmaceutique utilise des tests de mutagénèse et qu'il y a beaucoup de substances qui sont cancérogènes sans être mutagènes. Et ça, on veut absolument pas en entendre parler. Déjà, en premier, il faut citer les hormones qui, dès qu'elles ne sont pas en dose physiologique, peuvent déboucher sur des cancers, mais elles ne sont pas considérées comme cancérogènes parce qu'elles ne sont pas mutagènes. Et la pratiquement, je crois, tous les tests que l'industrie pharmaceutique utilise, ce sont des tests de mutagénèse et non pas réellement des tests de cancérogénèse. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle tant de médicaments qui sont en vente libre poussent au cancer ou sont extrêmement toxiques sur l'ADN. Ils n'ont pas le moyen d'évaluer ça, tandis que l'oncotest donnait la réponse. Mmh. Et quand, avec Mirko, naïvement, on est allé voir les industriels, ils nous ont répondu, en matière, vous allez nous mettre au chômage avec votre test, et la seule réponse, c'est le sparadrap sur la bouche. Ça en dit long.
Alors, revenons au bouquin. Donc, le professeur Delbey, la Delbiase, qui d'autre encore?
Le professeur Masqui, le docteur Masqui, son histoire est invraisemblable. Voilà quelqu'un qui est d'une vieille famille de médecins. Alors, son grand-père était médecin, des médecins niçois. Son père était médecin, ses frères sont médecins, ils sont tous dans le même immeuble. Ils sont connus sur place. Ce sont des gens sérieux. Et il va faire de la médecine, d'abord pendant quelques temps, après ses études, il va faire de la médecine tropicale à Madagascar. Et là, il se rend compte que certaines maladies n'existaient pas, notamment la sclérose en plaques. Et lui avait tendance à avoir des maux de tête qui disparaissent complètement quand il est à Madagascar, parce qu'il avait pris l'habitude un peu de marcher pieds nus, comme tout le monde, etc. Il se rend compte aussi que certains animaux... non pas de maladies sur place.
Ils sont à la masse. Tout à fait.
Ouais, si on pourrait dire ça. Oui. Donc il se rend compte que certains animaux n'ont pas les maladies qu'ils ont lorsqu'ils vivent ici, par exemple, en appartement. Et réalise finalement que la sclérose en plaques, alors ça serait trop long à expliquer, mais il finit par comprendre que la sclérose en plaques, c'est l'accumulation, et encore on en est à ce que vous disiez tout à l'heure, l'importance de l'électricité, c'est l'accumulation tout au long de la vie et d'électricité statique qui en est la cause. Il explique qu'on peut, avec des produits chimiques, s'empoisonner immédiatement ou bien s'empoisonner à la longue, mais qu'on peut, avec l'électricité, s'électrocuter immédiatement, ou bien s'électrocuter à la longue.
Et que la
sclérose en plaques, eh bien, c'est une conséquence de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il découvre ça? Il essaye ça sur des malades, il soigne 10 malades, 50
c'est
malades.
Il fait, il emmène une petite chaîne au pied.
Non, mais pas du tout.
Non, il les fait marcher pieds nus.
Il les fait marcher pieds nus. Il leur dit, par exemple, dans votre bureau, ben, tenez, faites des, si vous avez des chaussures en cuir, par exemple, vous avez beaucoup plus de, beaucoup moins de chances d'attraper ça qu'avec des chaussures, qui, très isolées. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si simplement, vous prenez 2 douches par jour, vous vous mettez totalement à la masse sous votre douche et ça suffit pour changer votre état de santé, par exemple. Alors que la baignoire, au contraire, vous n'êtes pas à la masse. Et c'est des détails, si vous voulez. Mais en changeant les détails de la vie des gens, également en trouvant quand même certaines terres réfractaires qui leur mettaient dans, avec une ceinture autour de la colonne vertébrale, etc., il est arrivé, alors empiriquement, si vous voulez, à des résultats vraiment étonnants. Il n'a pas voulu se faire de publicité. Il a fait savoir comme il convient.
Surtout,
pour un médecin.
Comment il pouvait faire fortune en disant aux gens, prenez 2 douches par jour et marchez pieds nus.
Lui, parce que son cabinet se remplissait, on allait le voir de toute la France, parce qu'il avait des résultats. Mais en revanche, c'était effectivement ruineux pour certains. Alors je vais expliquer pourquoi c'était ruineux, parce qu'on voit bien fonctionner le vice du mécanisme d'aujourd'hui. À cette époque-là, un médecin qui s'appelait le professeur, je crois, j'oublie son nom, c'est pas lui lié. Est-ce que vous avez connu un médecin dont le nom commence par L, assez long?
Non, j'ai pas la mémoire.
Nous discutions dans la voiture tout à l'heure de nos problèmes avec les noms. Alors, un médecin dont le nom me reviendra peut-être. Bref, un grand médecin, mais si quand même on le connaissait pas assez. Alors, il fait jouer ses relations, franc-maçon, etc. Et finalement, eh bien, il décide de créer un machin, comme il y en a tellement dans le domaine de la médecine, un institut de recherche pour la sclérose en plaques. Alors, du jour au lendemain, il devient le... je crois que c'est le professeur, c'est pas Duvillier, c'est quelque chose comme ça, ça me met en rage.
Duvillier?
Comment?
Duvillier?
Non, ça commence par un L. Et c'est d'un O assez long, peu importe. Et bref, il devient le monsieur sclérose en plaques en France. On l'invite dans le monde entier. Il a d'énormes services et d'énormes crédits. C'est formidable. Tout va bien. Et il recherche la cause virale de la sclérose en plaques. Voilà un homme d'une célébrité extraordinaire, avec d'énormes crédits, un bureau somptueux. Et voilà qu'un petit médecin de la région de Nice vient dire, écoutez, désolé, mais il n'y a plus de recherche. Il n'y a plus de crédit. Il n'y a plus rien. J'ai trouvé. C'est pas un virus. C'est l'électricité statique. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce médecin a été viré à vie de l'ordre des médecins, simplement parce qu'il avait trouvé ça. Alors comment est-ce qu'il est devenu célèbre quand même par ailleurs? Il n'a pas voulu se faire de publicité. Il est allé voir l'ordre des médecins pour expliquer, voilà où j'en suis, j'ai une centaine de malades guéris, voulez-vous les examiner? Écoutez, vos malades ne nous intéressent pas et on le rejette. Seulement, les malades, eux, le hasard voulait qu'il y avait une boulangère qui était dans un état déplorable. Les gens du quartier l'avaient vue dépérir de jour en jour. Et puis un beau jour, les gens du quartier la voient devenir toute pimpante. Elle avait une décane pour se déplacer, elle bavait un peu, elle était dans un état déplorable, malheureusement comme on est à un certain niveau de sclérose en plaques. Et brusquement, elle se porte bien, elle trottine, tout va bien. Madame, comment se fait-il que vous alliez aussi bien? Et parmi les gens qui l'interrogent, il y a le responsable local de l'agence France Presse, qui constate que sa boulangère se porte très bien. Ben, il dit, oui, il y a le docteur Intel qui m'a fait un traitement, ça va très bien. Tous les gens que j'ai connus dans le même cas que moi se portent très bien. Et alors l'autre fait un beau papier, il l'appelle le docteur Miracle. Et c'est à ce moment-là qu'on vient dire, ben, écoutez, vous vous êtes fait de la publicité, vous n'avez pas le droit, un peu ce qui est arrivé pour Beljanski à une époque, on l'accusait de faire de la publicité aussi à certains médecins de l'entourage de Beljanski, qu'on accusait de se faire de la publicité parce que des malades les invitaient dans des pique-niques parce qu'ils étaient reconnaissants, mais c'était la faute du médecin, il n'aurait pas dû les guérir, il n'aurait pas été célèbre, et comme ça il ne serait pas fait de publicité en fait. Bref, il a été viré de l'ordre des médecins, et il a écrit un livre qui s'appelle « Sauvé par mes malades », parce qu'il a continué d'exercer. Il a sauvé 100 malades qui sont venus témoigner chaque fois qu'il y avait des problèmes, et puis 200 malades, puis 300 malades, puis 600 malades, c'était des manifestations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il était viré de l'ordre des médecins, mais chaque fois qu'il passait devant un tribunal, on lui mettait, parce qu'il y a un peu ce qui vous arrive, on lui mettait une petite amende, hein, et puis un franc de dommages et intérêts pour l'ordre des médecins, et puis on lui disait, ben, écoutez, continuez. Donc il a continué d'exercer toute sa vie sans être médecin, finalement, puisqu'il fallait passer par l'ordre. Et puis, alors l'hypocrisie extraordinaire, c'est que devant le nombre de gens guéris, ils ont quand même fini par lui le rétablir dans l'ordre des médecins. Ils ont attendu qu'il ait passé l'âge de la retraite. Je trouve que c'est assez extraordinaire. Donc voilà l'histoire du docteur Masquier qu'on raconte. Attends, mais ce qui est très bien dans ce livre quand même, c'est qu'à la fin de chacun de ces livres, vous avez toutes les adresses que vous pouvez retrouver.
parce que toutes ces choses-là existent encore. Le docteur Masqui donne des documents aux gens, bien qu'ils soient en retraite aujourd'hui, donc donne des documents pour se soigner, donne les noms de quelques médecins qui marchent un petit peu sur ce, qui le suivent dans ce domaine, en fait. Et donc, que ce soit Delbet, on voit où on peut se procurer la Delbiase, que ce soit le docteur Masqui, on voit comment on peut se soigner, etc. Et on arrive donc de cette manière à un livre, ben, qu'on est heureux de, c'est pas du commerce, comprenez, qu'on est heureux de mettre à la disposition des gens, parce que vous avez un tas d'adresses pour vous sauver en dehors des circuits habituels. C'est un sujet d'ailleurs que vous connaissez bien. Voilà. Maintenant, je vous laisse un peu la parole.
À propos de médecins étranges ou de médecins novateurs ou de recherches novatrices, j'ai un message d'un auditeur qui me dit: quand ferez-vous une émission sur le moteur magnétique et les énergies libres? Alors là, je voudrais dire un mot, parce qu'on parlait de Pierre Lanz tout à l'heure, je voudrais y revenir. Un jour, j'ai invité, sur la recommandation de gens qu'ils connaissent très bien, un des principaux spécialistes en France des énergies libres, quelqu'un qui a une maîtrise particulièrement pointue du sujet, à qui j'ai voulu demander donc de venir parler de ça. Et alors il était un peu hésitant, parce qu'il me dit: j'ai eu des ennuis terribles chaque fois que j'ai parlé de ça, c'est même un sujet dangereux. Je lui dis: mais venez quand même, parce que ça vaut la peine d'en parler. Il me dit: bon, très bien, je viendrai. Puis la veille de l'émission, je l'appelle et je lui dis: bon, alors on se voit demain. Il me dit: oui, mais finalement, j'ai trouvé un autre sujet. Je trouve que ce serait beaucoup plus intéressant que je vous raconte la vérité sur Jésus-Christ, qui était, comme chacun sait, le fils d'une prostituée et d'un centurion romain. Alors je lui dis: écoutez, parce que je sais pas... Ça m'intéresse quand même beaucoup moins que les énergies libres, donc on va peut-être éliminer cette émission. Et il m'a dit: j'en étais sûr, vous m'avez censuré.
Ah oui, effectivement, oui.
Voilà.
Il y a des gens
donc,
comme ça.
Un jour, on fera une émission sur les travaux, notamment de Tesla. Et bon, c'est tout à fait passionnant, mais c'est peut-être pas à ce monsieur que je rappelle, parce que je me demande s'il est parfaitement qualifié.
Non, mais il faut travailler dans ce domaine, parce qu'il y a des choses. On ment aux gens de manière effrayante. Oui. Par exemple, on sait depuis très longtemps à quel point sont dangereux les écrans de télévision à certaines distances, à quel point sont dangereux les écrans d'ordinateur. Moi, je vois mes enfants qui sont en pleine croissance, qui ont 8-10 ans, on les met déjà à l'école une heure à une heure et demie, obligatoirement, par semaine, devant des écrans d'ordinateur. On sait aussi maintenant de manière certaine, et on sait depuis beaucoup plus longtemps qu'on le dit, le danger des téléphones portables. Il existe en plus des procédés pour que ces ondes qui agissent au niveau de l'atome, puisque l'atome, lui, émet aussi des ondes, et qu'on peut bien sûr, je schématise pour les gens qui nous écoutent, puis je ne suis pas comme vous un scientifique, mais on peut arriver aussi bien à parasiter les ondes de nos atomes par certaines autres ondes qu'on va parasiter votre autoradio, et les atomes perdent leur identité, deviennent fous, et c'est une des causes de la maladie. Or, on peut arriver à changer ces ondes qui sortent de ces éléments et à les rendre à nouveau biocompatibles. Il existe des matériels pour ça, les gens ne le savent pas, et c'est, je crois, intéressant de le savoir. Là, je me tourne vers le polytechnicien qui va peut-être expliquer mieux que moi ce que j'ai dit, ou me parler d'un des accords à les savoir. Je vous écoute.
La difficulté étant pas en général de changer les matériaux, mais de rendre les matériaux actifs et disponibles dans l'organisme. C'est le défi que partagent tous ceux qui cherchent à mettre au point des produits fortement actifs en médecine naturelle. Le seul espoir, on pourrait dire, commun de tous ces chercheurs étant d'arriver à créer des substances qui ne présentent aucune toxicité et qui pourtant aient une action sur l'organisme qui soit forte et quantifiable.
Et comme Mirko a parlé d'un produit qui était sélectif, c'est-à-dire qui n'agissait que sur les cellules cancéreuses et pas sur les cellules saines, ça a fait un tollé. Alors que c'est le bon sens, la spécificité, les hormones ont des sites récepteurs, une spécificité. Pourquoi est-ce qu'un produit, et d'ailleurs les produits qu'il a mis au point ont prouvé, ça fait maintenant 20 ans pratiquement qu'ils sont employés et utilisés chez les malades, sont des produits sélectifs et spécifiques, c'est-à-dire qu'ils n'attaquent que les cellules cancéreuses.
Ils ont même fait une révolution en biologie en prouvant.
On nous a ricané au nez, on nous a dit au début c'est pas possible. On a une lettre d'un ministre, c'est Claude Évin qui dit du moment que votre produit n'a pas d'effet secondaire, c'est impossible qu'il soit actif, il n'y a aucune exception à cette... Il y a une recherche et une volonté de toxicité pour tuer les cellules. Alors c'est-à-dire qu'au moment où le malade est déjà attaqué par la maladie, on lui bouffe son immunité, on l'affaiblit par des produits toxiques, et après on est surpris qu'il passe l'arme à gauche.
Mais oui.
Juste ajouter une chose, que pour les plantes, c'est exactement la même chose.
Absolument. Oui. On a beaucoup travaillé d'ailleurs sur le cancer des plantes, qui ont beaucoup de points communs finalement, avec, parce que Mirko voulait avoir une règle générale en biologie, si c'est valable chez les plantes, chez les souris, chez les humains, chez les cellules en culture et chez les humains, c'est vraiment une loi générale de la biologie.
D'accord. En agriculture, maintenant, on commence à travailler avec des produits qu'on nomme héliciteurs, qui sont faits pour stimuler les défenses naturelles des plantes. Oui. Parce qu'on comprend que... moi, j'ai plusieurs amis qui sont vignerons qui me disent maintenant, on a plus de solution. Parce que d'année en année, on augmente le dosage. Le dosage dans les produits, les principes actifs sont de plus en plus dosés.
Toxiques.
Et on n'arrive pas à s'en sortir. Oui. Donc lui, il a une solution, enfin cette personne en particulier, une solution radicale de dire pendant 2 années, je vais tout réduire. Pour que mes plantes reprennent de la vigueur et puissent se défendre naturellement, finalement.
Un auditeur nous cite deux autres savants maudits et chercheurs exclus, le docteur Marc Émilie, qui est auteur de Science et Foi, qui avait été boycotté parce qu'il prouvait que le microbe était un produit de la matière vivante, mais pas un ennemi de l'homme. Ce qui me paraît d'ailleurs évident.
On vit en symbiose.
Microbe, en soi, ça veut rien dire. Enfin, c'est pas parce qu'on est microbe qu'on est un ennemi.
On peut pas se passer de microbes dans l'intestin.
On en est bien à une centaine de millions. Et même chose pour le professeur Pêche de Nîmes, qui a publié un ouvrage Menace sur votre vie, l'ouvrage paru au Seuil, où il démontrait que les maladies cardiovasculaires viennent essentiellement des antibiotiques. Voilà.
La liste serait longue.
Oui, effectivement, on pourrait faire toute une série de livres comme ça, toute une collection. Louis Lumière, qu'on connaît plutôt pour ses inventions en ce qui concerne le cinéma, on sait beaucoup moins qu'il s'est passionné pour la santé. Et dans le domaine de la santé, il a trouvé un tas de choses extraordinaires, que ce soit des tables de massage spéciales, que ce soit un tas d'éléments. Et Lumière, voyant de quelle manière on réagissait, lui qui réussissait parfaitement, qui était multimilliardaire, par ailleurs les films Lumière, c'est une fortune. Bon, mais dès qu'il touchait à la santé, par contre, il était étouffé. Alors, il s'est pris de colère et il s'est mis à écrire un bouquin dans lequel, à l'époque, il avait relevé à peu près déjà une centaine de savants maudits. Et il disait finalement, l'idée du livre, c'était « Mais cessez donc de vous vanter des progrès de l'humanité. Tous les progrès ont été faits en général contre l'humanité, par des gens qui ont dû lutter contre tout le monde, qui ont été écrasés chaque fois qu'ils ont bousculé les dogmes. Et ça a été vrai toujours, pour tout, y compris pour les plus grands progrès scientifiques dans le domaine de la médecine de notre époque. » La pénicilline, qui n'a été vraiment fonctionnelle que près de 25 ans après qu'ait été soignée la première personne à Londres, qui était un monsieur qui s'appelait Craddock. Et, drôle de nom, je n'y peux rien, mais c'est comme ça, je crois que c'est un policier londonien. Et Alexander Fleming raconte que quand il s'est présenté devant l'Académie royale de médecine pour présenter la pénicilline, il a eu droit à un mépris glacé. Il me dit, jamais de toute ma vie, je n'ai été autant humilié. Il faut savoir que les Anglais, quand ils sont glacés, dans le domaine du mépris glacé, ils sont très forts quand même. Voilà. Et donc, c'est quelque chose de constant. La difficulté à bousculer les dogmes, parce qu'on bouscule aussi des gens en place, et puis surtout, c'est le cas de Beljanski, quand vous arrivez et que des milliers de personnes cherchent et sont payées grassement, le trouveur, mais c'est l'adversaire de tous ces gens-là, parce qu'il n'y a plus rien à chercher dans le domaine, et ça, on ne lui pardonne jamais.
Et à ce propos, on pourrait peut-être citer les gens qui exploitent le nom de Beljanski pour faire des produits qui ne sont que de mauvaises copies.
Ça, je voulais vous en parler de ça.
Oui, c'est invraisemblable. Il y a au moins 5 ou 6, le plus connu est Parabolique en Belgique. Ce sont des gens qui utilisent et exploitent le nom de Beljanski, qui ont scanné des pages entières de nos écrits et qui les envoient en même temps que leur bon de commande pour que les gens fassent l'amalgame. Or, nous avons analysé leurs produits, ça n'a rien à faire qu'ils vendent, s'ils volent des extraits des mêmes plantes, mais qui n'utilisent pas le nom de Beljanski et qui ne prétendent pas que ce sont les produits Beljanski. Ça trompe les malades. Ils font l'objet d'aucune poursuite. Ça arrange probablement parce que ça discrédite le nom de Beljanski. Les malades qui prennent ces produits croyant prendre, et ils sont nombreux, croyant prendre les vrais produits Beljanski, diront après, les produits ne marchent pas. Les seuls produits qui sont authentiquement faits selon les prescriptions de Mirko Beljanski sont les produits qu'on achète à New York.
Mais ont-ils changé la formule? Parce qu'il n'y a pas de raison logique.
C'est pas qu'ils ont changé la formule, c'est qu'ils font de mauvaises extractions où ils ne vérifient pas bien. D'abord, le mode opératoire est très important. La source de produits est très importante. Si vous, il y a en Amazonie, il y a des centaines de paupérira. Si vous achetez des paupérira qui sont très pauvres en matière, déjà les bons sont pauvres en matière, en principe actif. Donc, si vous achetez des paupérira qui ne sont pas riches en matière active, ben vous avez finalement des extraits qui sont, et puis ils ne comprennent pas très bien ce qu'ils font puisqu'ils se sont vantés d'avoir du gésospermum qui est un produit que nous éliminons, qui est toxique. Donc
oui, ça j'ai entendu en disant ils se vantaient d'avoir grande quantité de ce produit que vous vous acharnez vous
éliminer. Qu'on s'acharne à éliminer parce qu'il est connu pour être toxique.
Je m'aperçois que là je me guette là et me rattrape parce que je pensais lire ça sans lunettes et j'ai presque des difficultés. Mais voici l'étude de la gésospermine dont ces gens se vantent d'en avoir beaucoup en plus. Parabolique. Et là, tu pourras lire, c'est une étude pharmaceutique sérieuse, je crois, de la faculté de Reims, et tu pourras lire ce qu'on dit de la gésospermine.
Alors, le gésospermine, alcaloïde principal des écorces de paupérira, gésospermum levé, apocynacé, est une substance assez toxique, exerçant une action dépressive sur le système nerveux central, le système nerveux autonome, le myocarde et la fibre musculaire lisse. Administrée à l'animal, elle montre des propriétés neurodépressives, se marquant par une diminution de la motilité spontanée.
Sont pressés par l'appât du gain et n'ont pas du tout le désir de faire quelque chose de propre et d'aider leurs concitoyens.
Provoque une hypotension durable due à ses propriétés sympatholytiques, vasodilatatrices périphériques et dépressives cardiaques. Moi, ça me ferait du bien plutôt si c'était vraiment hypotensif.
Neurotoxique.
Mais neurotoxique, j'en ai vraiment pas besoin.
Alors là, voilà un autre imitateur, NutriLife, par exemple. Voilà notre NutriLife, par exemple, et vous pouvez voir marqué ici, vous pouvez lire, voilà, qu'ils se vendent d'avoir de la gésospermine. Je vous le montre pour que vous vérifiez, vos lecteurs vous connaissent. Vous êtes quelqu'un d'honnête.
Oui, alors la gésospermine, la périnéine, la bénocéline, il semble efficace pour protéger les personnes infectées par divers agents infectieux de type viral. Oui, mais ce que je trouve extraordinaire, quand même, c'est que en haut de cette page, j'ai marqué produit Mirko Beljanski.
Mais oui,
alors,
c'est une arnaque.
C'est incroyable que vous n'arriviez pas à...
Pourquoi vous n'attaquez pas
avant? Mais si, on a attaqué. Le procès est en cours.
Ah bon,
c'est fou.
Si vous pouvez attaquer,
parce que moi, si on vendait les produits
à partir du moment où ils écrivent, mais très souvent,
La méthode parfois est très vicieuse. Par exemple, la façon de faire, d'appeler un pays un produit PP quelque chose sans plus, et puis. On donne aux gens gratuitement un petit livre sur Beljanski. C'est tout.
Oui,
on
ne
dit
ça,
pas que c'est le produit Beljanski. Mais les gens, évidemment, vont l'imaginer. Mais qu'est-ce que vous allez prouver devant...
Ils voient même tirer à part de Mirko.
Alors, je voudrais dire qu'il ne s'agit pas du tout ici de commerce. Il ne s'agit pas ici de gagner de l'argent, en fait. Voilà. Mais je vais parler de quelqu'un que tout le monde connaît ici, le crabe tambour. Le crabe tambour, qui était un de mes amis, puisque je suis donc un des anciens de l'OAS comme lui, et qu'il était vice-président de l'association des anciens de l'OAS, dont je suis un des administrateurs, me dit « J'ai un cancer, mais je suis tranquille, j'ai lu ce que tu as écrit, je prends les produits Beljanski ». Et puis, quelques temps après, il me dit « Tu sais, ça ne comprend pas, ça va très mal ». On m'a pourtant dit qu'on me donnait un très bon produit Beljanski. Je lui dis « Attends, comment un très bon produit Beljanski, ça n'existe pas ? Il y a les produits Beljanski, il n'y a pas un très bon parmi les autres ». Et je découvre que cet homme-là se soignait avec des faux produits Beljanski depuis des années. J'ai arrêté de me soigner immédiatement. Je lui ai donné tout ce que j'avais. 6 jours après, il était mort.
Ouais, c'était trop tard.
Comprenez ? Ouais. Voilà. Alors ces gens-là tuent des gens. Il faut quand même le dire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors moi, quand je fais des conférences, quand je parle de Beljanski, les gens me téléphonent après, ils m'écrivent. Et là, nous avons des lettres. Je ne veux pas les lire, il y en a trop, mais tu vois, les lettres que nous avons.
Nous n'avons pas de
tout ça. Oui, bien sûr, c'est pire que tout. Mais donc, tout ça, ce sont des gens qui nous disent, bon, ou qui écrivent à Parabolique. Là, j'ai là des photos de lettres envoyées à Parabolique. Tiens, tu peux peut-être lire. Juste là où j'ai mis en rouge, tu vois, à côté. Hein. Voilà. Ce sont des gens qui écrivent à Parabolique et qui nous envoient les lettres.
Son traitement, à savoir 2 gélules par jour de chaque produit, il a ressenti une extrême fatigue. Le mettant dans la capacité d'effectuer normalement son travail et l'obligeant à se coucher. Quand on lit effectivement.
Ma confiance a été confisquée, etc. Voilà.
Alors, ça correspond à cet état de fatigue. Quand on apprend que le produit est riche en gésospermine qui produit une action dépressive sur le système nerveux central, le système nerveux autonome, le myocarde.
Alors, ce que je disais, non seulement ils font du tort aux malades, ils font du tort à la science, ils font du tort rapport à Beljanski, évidemment, c'est le but de faire de l'argent et de faire du tort. Alors, et c'est pour ça que le système laisse faire.
J'ai acheté les produits du Paupéré, les laboratoires paraboliques, et je témoigne avoir eu des crampes terribles avec ce produit.
Ouais. Oui, non, mais...
Alors j'ai quand même une bonne nouvelle, dans le journal, enfin le journal, je ne sais pas si on peut appeler ça un journal, dans 20 minutes, c'est un truc qui est distribué gratuitement.
Ah oui, moi j'ai connu 1 minute, moi qui était le nôtre, que nous avons travaillé l'année l'autre, toi directeur de la rédaction et moi simple journaliste.
Alors dans 20 minutes, il y a un grand article qui contredit totalement vos propos.
Ben voilà. Oui,
alors, il faudrait, c'est une auditrice qui nous dit ça, mais madame, il faudrait que vous compreniez que 20 minutes, c'est un journal qui n'est pas payé par ses lecteurs. Comme d'ailleurs la plupart des quotidiens en France, elles sont payées par des annonceurs. Alors évidemment, quand on a parmi ces annonces, quand on a parmi les gens qui vous payent des annonceurs, on fait, comme je disais, comme je dis souvent, on fait ce que disent les annonceurs parce qu'il y a un vieux proverbe russe qui dit « c'est celui qui paye les violons qui choisit la musique ».
Évidemment.
Et donc, quand le journaliste veut faire un papier sur un produit qui risque de porter atteinte aux intérêts économiques des gens qui financent le journal, eh bien, les gens qui financent le journal disent au directeur qui croit être le patron du journal « non, tu ne publies pas ça parce qu'on ne veut pas ».
De toute façon, il n'y a pas à contredire l'exploitation d'un nom pour un produit qui n'est pas conforme à ce que le chercheur a établi est une arnaque.
Et un auditeur nous dit que dans une autre émission, il a entendu que Mme Beljanski portait ombrage au parabolique biological laboratoire en Belgique qui fait les mêmes produits.
Mais non, c'est pas les mêmes produits. Ils peuvent faire des extraits de la même plante, mais faire croire que ce sont les produits Beljanski, ça, c'est une arnaque.
Voilà.
Et je ne fais pas du tort du tort à parabolique. Je dis, ces gens-là exploitent un nom.
Et non, mais c'est assez inouï d'entendre l'imitateur se plaindre que celui qui l'imite lui fasse du tort.
Je vous donne la parole dans 2 minutes.
C'est la pause.
Pause technique. Il a de l'autorité, hein. Non, mais il ne faut pas croire, Franck, c'est... Oh là là. Donc, oui, il faut bien qu'il y en ait quelques. Merci, Marquis, c'est gentil. C'est très, très sympathique ce que vous venez de faire. Vous vouliez prendre la parole ?
Oui, si ça ne vous ennuie pas.
Bon, écoutez.
Je voulais simplement... Je vais remonter un tout petit peu le film, parce qu'il a été dit tout à l'heure à juste titre que on faisait pas attention, qu'on ne prévenait pas les gens. Moi, je ne sais pas pour les téléphones portables et pour le reste, mais en ce qui concerne les écrans informatiques, j'ai assisté pendant, il y a maintenant 25 ans, à l'informatisation de tout le système des courses en France. Hein. Avant, on travaillait à la plume d'oie, et d'un seul coup, on est passé à l'informatique. Et du jour où on a commencé, il y a eu à longueur de journée des inspecteurs du travail qui sont venus mettre en garde contre ceci, contre cela, etc. Je dois dire que les directions étaient assez partantes, et c'est toujours les employés qui enlevaient le filtre qu'on avait mis devant l'écran parce que c'est plus facile de lire sans le filtre. C'était ceux qui refusaient de porter les lunettes, qui refusaient d'avoir la lumière qui allait avec l'écran. Alors, je veux bien, moi, on prévient les gens, mais pour faire l'amour, il faut être deux. Hein.
Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, on le voit bien.
Je ferme la parenthèse.
Je crois que les fabricants ont changé les écrans, justement. Maintenant, c'est un...
Bien sûr, mais les inspecteurs du travail se sont beaucoup bagarrés là-dessus. Et moi, j'étais à l'époque président de mon syndicat. J'étais saisi sans arrêt et j'avais beau prêcher la bonne parole. Les gens n'écoutaient pas ce qu'on leur disait. Voilà.
On le voit bien sur les chantiers où c'est les patrons qui sont obligés de rappeler sans arrêt à l'ordre les ouvriers. Qui ne portent pas les ceintures de sécurité, qui ne mettent pas les casques, tout ça, c'est évident. Bon. Mais ça, c'est vrai que...
Les travailleurs ont été tirés quand même.
Oui, c'est vrai. Mais enfin, je peux témoigner, par exemple, moi, je n'utilise pas d'écran spécial sur mon ordinateur parce que c'est extrêmement fatigant. Bon, alors, c'est vrai que la vue, on prend un coup, mais bon, il faut choisir. Non, mais à 57 ans, c'est fini, on n'a plus l'essentiel du chemin fait. On peut dépenser ses dernières forces, n'est-ce pas, mon cher ?
À 63 ans, j'ai encore 5 enfants à élever qui sont tout petits.
Et j'ai bien l'intention de vivre encore grâce aux produits Beljanski. Voilà.
Non, parce que je vais la rappeler, c'est vrai, les gens l'ont oublié.
Tu es mort depuis combien alors?
Je suis mort en principe depuis 4 ans. 4 ans et quelques jours, puisque je devais mourir en octobre, il y a 4 ans à peu près. J'avais 3 mois à vivre. Lorsque tu m'as envoyé une petite bouteille avec un petit mot, il y avait marqué « tu m'as aidé avec ce produit-là, je vais te rendre le même service ». Et c'est toi qui as téléphoné à Mme Beljanski, qui m'a téléphoné le lendemain. Je lui ai dit « malgré l'excellence de vos produits, je n'ai aucune chance parce que j'ai un cancer énorme ». Elle m'a dit « je ne vous garantis rien, mais je vous garantis en tout cas que nous allons augmenter terriblement vos chances et vous devez vous battre ». Et elle a tellement augmenté mes chances que, à ma grande surprise, je suis plutôt en forme 4 ans après, alors que vraiment le meilleur spécialiste de France qui m'avait été indiqué par le ministre de la Santé, donc par le ministère, pardon, de la Santé. Il est censé tout savoir en matière de lutte contre le cancer s'il est le meilleur spécialiste. La seule chose qu'il connaissait pas, c'était les produits Beljanski. Et je suis là. Et je pense donc qu'ils sont pour une large part, une part essentielle dans le fait que j'ai survécu. Et que je continue d'élever mes enfants. Voilà.
Et nous en félicitons, eux aussi d'ailleurs.
Oui, je pense le faire.
C'est l'essentiel.
On parlera tout à l'heure d'autres questions, de ces questions avec nos autres invités, mais je voudrais vous poser, puisque tu as encore attaqué cette question des ondes électromagnétiques, est-ce que tu as des informations sur les effets des pylônes à haute tension? Et est-ce que tu as des informations sur ce qui semble être une inflammation formidable du nombre des personnes atteintes de ces troubles qu'on appelle abusivement la maladie d'Alzheimer?
J'ai déjà écrit sur le sujet un article dans Minute, ça doit remonter maintenant à 5 ou 6 ans, et je m'étais donc renseigné effectivement à l'époque sur le nombre de cancers à proximité des lignes à haute tension, et pas seulement des pylônes en fait, hein, dans un rayon d'à peu près 300 mètres. Voilà. Mais là, Madame Beljanski vient de lever le doigt parce qu'elle a l'intention de dire quelque chose là-dessus. Elle est forcément mieux placée que moi, donc je lui laisse la parole.
Ah, c'est gentil, j'apprécie, parce que je vous sais bavard. Mirko a beaucoup travaillé sur la radioprotection. D'ailleurs, je trouve très surprenant, les écologistes parlent toujours des dangers des radiations, on est contre l'arme atomique parce qu'il y a des radiations, etc. Mais personne ne s'intéresse à la radioprotection. Et grâce à un contrat que l'armée nous avait fait pendant 6 ans, on a pu survivre parce que le CNRS nous avait mis à la diète totale de crédit et faire un gros travail de radioprotection. Il s'agissait de rayons gamma, c'est-à-dire les plus brutaux et les plus... Mais on a pu montrer que deux des produits de Mirko, qui sont les ARN fragments et son extrait particulier de Ginkgo, sont vraiment d'excellents radioprotecteurs. Et dans notre époque où tout le monde parle des dangers des pylônes, des dangers des mammographies, des dangers de toutes
les échographies.
Moi, j'avais même lu un article américain qui disait qu'en 10 ans, une femme qui fait une fois par an une mammographie augmente de 20% ses chances de cancer. Ce sont des rayons. Et toute forme de rayon peut finir par déstabiliser les ADN, ce qui est la première étape vers la cancérisation. Or, personne ne s'intéresse à la radioprotection. Et nous avons mis au point deux produits qui sont efficaces comme radioprotecteurs, mais personne ne veut parler de radioprotection, et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas.
Est-ce que vous pouvez rapidement et simplement dire comment ça marche?
D'ailleurs,
comment le ginkgo biloba, qui est l'arbre connu pour résister aux radiations...
Oui, parce que quand on utilise, par exemple, des rayons gamma qui sont beaucoup plus brutaux, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, des cassures des ADN, qui sont tout de même essentielles pour le fonctionnement de la cellule. Et la rate diminue à 9 gray, par exemple. Pour une souris, c'est 10 gray à peu près la dose mortelle. À 9 gray, la rate diminue de 75% en quelques jours. Et pourquoi? Parce que c'est un catabolisme absolument considérable et on arrive à protéger, à empêcher cette lyse totale de la rate avec les produits, à peu près de 40%, ce qui est suffisant pour la survie des animaux. Donc, si vous cassez les ADN, mais si vous avez des systèmes de réparation qui sont immédiats, eh bien, il n'y a pas de délétion, c'est-à-dire de petits morceaux chimiques qui fichent le camp. Il y a des systèmes de réparation, la cellule est remarquablement bien faite et bien structurée pour ça. Elle se ressoude sur place. Et on peut vraiment... si on arrive à éviter une mortalité chez à peu près 70% des animaux qui reçoivent des doses presque létales de radiation, on peut imaginer que des gens qui reçoivent des doses tout de même assez minimes, mais constamment, peuvent très bien se protéger comme ça.
Et donc là, sont les effets du ginkgo biloba.
Du ginkgo biloba et des ARN fragmentés.
Et des ARN fragmentés. Très bien. Et sur la maladie dite d'Alzheimer, je dis la maladie dite d'Alzheimer parce que beaucoup de médecins disent que, en fait, bon, c'est un ensemble de symptômes qu'on a rassemblés sous une appellation générique. Vous avez des lumières particulières?
Non, on peut pas se permettre de dire ça parce qu'on ne connaît même pas exactement l'origine de cette maladie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des plaques d'interleukine 6 qui s'accumulent dans le cerveau, c'est connu, et c'est un des moyens de diagnostiquer l'Alzheimer. Et que notre extrait de PAO inhibe une grande partie de l'interleukine 6. Pas complètement, d'ailleurs on a besoin d'un peu d'interleukine 6, mais un excès d'interleukine 6 est inhibé par l'utilisation du PAO. Donc ça devrait freiner le processus, mais nous ne l'avons pas fait systématiquement, donc on ne peut pas se permettre de dire qu'on sera efficace pour enrayer ou freiner l'évolution de la pathologie.
Merci, Malik Belzanski. Oui,
sur les origines de la maladie d'Alzheimer, on sait quand même quelque chose, notamment que la médecine y est pour beaucoup. Comment s'appelle ça les...
Je ne sais pas ce que vous voulez dire.
Les extraits d'aluminium, ouais, non, les extraits.
Ah oui, l'aluminium qui entre dans la composition de déodorants, de vaccins, etc.
Oui. Il y a un autre mot, ce n'est pas les extraits d'aluminium, ce sont les oxydes d'aluminium.
Les oxydes d'aluminium
qui se trouvent notamment dans les vaccins, qui se trouvent dans tout ce que l'on donne pour l'estomac, notamment, dans le malox, etc. Oui, je crois qu'il y en a dedans. Toutes ces pâtes qu'on met dans l'estomac, c'est souvent à base d'aluminium parce que c'est ça qui arrive à manger l'acidité, etc. C'est des sortes de pâtes, genre malox. Le malox, c'est des sortes de pâtes de purée que les gens avalent. Voilà. Bon. Or, on a vu des femmes enceintes, par exemple, qui sous l'effet de la pression sur l'estomac avaient des aigreurs, se bourraient de pilules contre l'acidité gastrique, et cela passe la barrière du placenta, et on a vu des enfants naître avec le cerveau dans un état déplorable. À la suite de ça, voilà. Alors, en tout cas, selon l'OMS, une des causes essentielles de toutes les maladies dégénératives du cerveau serait notamment l'abus d'oxyde d'aluminium.
Bien. Alors, je voudrais répondre à l'avance à une objection qui va être faite, c'est que si ces produits sont dangereux, pourquoi sont-ils sur le marché? Eh bien, on a la preuve qu'il y a des produits dangereux sur le marché, puisqu'il y a un des plus grands laboratoires du monde qui vient de retirer précipitamment, 10 ans après qu'on ait demandé un produit, c'était un des produits les plus vendus au monde.
Oui, tout à fait.
Le Vioxx. Donc, le laboratoire l'a retiré du marché en disant, on n'est pas sûr que ça soit parfaitement sain, ce qui veut dire qu'on est sûr que c'est un épouvantable poison.
C'est encore invraisemblable que si les tests qui précèdent l'AMM était correctement fait, on le saurait avant.
Je ne sais pas si les tests sont correctement faits. Ce qui est sûr, c'est que les chèques, eux, sont parfaitement faits. Ça, c'est certain. Voilà. On va peut-être faire une pause question avec Victoria. Alors, ce que je vous demande, Malik Belzanski, Jean-Paul Leperlier, c'est de répondre très simplement, le plus vite possible, question par question, parce qu'on a essayé la solution, on a dit, ça marche jamais. Donc, question par question, si vous avez une intervention à faire, je vous demande d'être bref, parce que nous avons encore à donner la parole à nos amis ici présents, dont Jean-Pierre Petit, qui vient de nous rejoindre, et puis également Henri Dumérac et François-Xavier Maxent, qui nous parleront de leur découverte, parce que c'est une découverte.
Alors, nous avons reçu un assez grand nombre de messages qui nous disent que les gens de Parabolique ont été reçus dans l'émission de Benjamin Guillemin à 2 reprises.
Oui, ça, mardi dernier, je vais dire un mot là-dessus. J'ai déjà dit que cette radio est un lieu de liberté. Donc, Benjamin Guillemin reçoit qui il veut, c'est son droit strict, je ne le remets pas du tout en cause. Moi, je reçois qui je veux, j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'amitié pour Benjamin Guillemin, et j'espère en tout cas que c'est réciproque. Donc, il ne s'agit pas d'une opposition de personnes, il s'agit tout simplement d'inviter les gens qui ont des choses à dire. Chacun dit ce qu'il dit, dit ce qu'il veut dire, chacun s'exprime librement, et je répète ce que j'ai dit à propos des émissions qu'on a consacrées à l'affaire de la fraternité. Moi, je considère que les auditeurs et les lecteurs du Libre Journal sont des adultes, et des gens suffisamment intelligents et doués de discernement pour écouter toutes les parties et se faire leur jugement par eux-mêmes. S'ils ne veulent pas faire le jugement par eux-mêmes, il y a un appareil sur un poste de radio qui s'appelle un bouton, c'est extrêmement simple. On prend le bouton, on le tourne en général vers la gauche et on s'aperçoit que le silence règne sur les colonnes.
L'une et l'autre.
Sur l'une et l'autre colonne. Voilà.
Mais ce n'était pas une critique pour Benjamin Guillemin, c'est simplement pour nous signaler voilà, ce qui se disait dans cette émission. Donc, on nous disait que les gens qui sont de Parabolique qui sont venus ont dit que les Américains avaient été intoxiqués. Et attendez, je finis. Madame Maes de Parabolique a critiqué les produits Le Ribo et indiqué qu'il avait été récemment condamné à Bordeaux, en oubliant de préciser que le jugement indiquait qu'il n'est pas un charlatan, mais qu'il a été condamné pour défaut de procédure administrative.
Alors, ils ont peut-être sorti un produit
Non, mais je crois qu'il y a une soixantaine d'imitations des produits Le Ribo.
Oui, c'est ça. Voilà. Allez-y, Victoria.
Je suis une des personnes qui prend Parabolique. Et à vous entendre, je suis très, très inquiet. Pouvez-vous nous donner l'adresse des produits qu'on peut avoir à New York?
Alors, c'est un petit peu délicat maintenant. Bon, écoutez, on ne va pas lancer dans une querelle, une guerre commerciale entre... C'est hors sujet, ça. On a dit, Monique Beljanski, qui est chercheuse, a dit ce qu'elle avait à dire à propos des produits Parabolique. Également, pour l'excellente raison qu'ils usurpent le nom de Mirko Beljanski.
Oui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent
voilà,
avec
le reste,
des extraits
ce qu'ils veulent. Et...
Tout le monde est libre, mais ne pas utiliser le
maintenant,
nom.
Maintenant, pour ce qui est de l'adresse, il suffit de m'écrire au journal ou de m'envoyer un coup de téléphone au journal.
Ou regarder
le site internet et on aura les réponses. Voilà.
Alors, je connais vos produits, Real Build, Revol, PMO, FM. Bon, est-ce que vous avez d'autres produits contre le cancer? Faut qu'ils écrivent.
Le Gico, le PAO, le Revol.
Mais c'est ce qu'elle connaît.
Oui,
donc.
Le PAO.
Oui, non, non, non.
Il y a un très bel article dans la revue Nexus numéro 33 qui est un hommage au docteur Beljanski.
C'est une très bonne revue d'ailleurs.
Oui, une très bonne revue, un très bel article. Et ça a été fait très sérieusement parce que j'ai été longuement interviewé, beaucoup de malades ont été interrogés. Et toi qui as dirigé un grand journal et qui en dirige encore un autre, tu sais comment les gens travaillent en général. C'est rarement qu'on se donne tellement de mal. Hein.
C'est vrai, c'est une très très bonne revue, très intelligente, courageuse, marrante en plus.
Oui.
Un jour, j'espère recevoir les gens qui la font.
Où peut-on trouver de l'Adelbiaz? Chez les pharmaciens, on en trouve plus.
C'est l'Adelbiaz, on en trouve chez les pharmaciens. J'en ai moi-même acheté à l'île de Léron, dans un endroit perdu, très facilement.
Pourquoi les produits commandés aux USA arrivent d'Angleterre? J'ai beaucoup d'appels dans ce sens.
Bon, ça, c'est une question de douane. Ils sont fabriqués aux États-Unis et distribués par l'Angleterre parce que l'Angleterre, il y a les agréments en Angleterre et que ça fait partie du marché, l'espace Schengen.
Où peut-on écrire encore? J'ai beaucoup d'appels.
Beljanski.com.
Où peut-on écrire pour avoir les produits Beljanski?
À Natural Source à New York.
Attendez doucement.
Et vous aurez l'adresse.
Natural.
Natural.
Bon, il faut donner l'adresse parce qu'elle est trop demandée. Ça, c'est
oui, parce que vraiment, il y a tous les messages qui arrivent. Alors, Natural Source.
Natural Source à New York.
New York. Oui.
Mais Natural Source New York, c'est peut-être un peu juste.
Natural Source New York, oui. Alors, PMB, ce qui veut dire, c'est l'équivalent de Post Office.
PMB, oui. Post Mailbox.
331, je crois. Non. C'est...
On va la trouver.
East, 51e Street.
Attendez, East.
51. East, c'est EAST. Plus loin, 51. Plus loin, ST.
Je ne suis pas sûr d'une...
51 oui, alors, Street.
On verra ça plus tard.
Ouais, ça prouve que nous ne sommes pas venus ici, les agents commerciaux.
Oui, bravo. Hein.
Dans les produits Beljanski, avez-vous quelque chose contre la maladie de Parkinson?
Non.
Un produit dérivé de l'aluminium est l'hydroxyde d'aluminium. Le produit dérivé de l'hydroxyde. Bon, existe-t-il un livre ou une personne que je puisse contacter pour une sclérose en plaques?
Il faut chercher le numéro de téléphone, je ne l'ai pas en tête, hein, du docteur Maski. M-A-S-C-H-I, à Nice. Et il est en retraite maintenant, mais il envoie une documentation aux gens. Et je connais déjà des gens soignés récemment avec qui j'ai parlé, et les résultats sont toujours extraordinaires.
C'est étonnant, c'est quand même extraordinaire.
Ben oui, parce que c'est une intoxication par les tristesses statiques tout au long de la vie, et que cette personne déjà simplement prenne deux douches par jour et sera étonnée de voir la.
C'est bon, étonnant. Par l'accueil que ça lui vaudra de la part de ses voisins, et ensuite.
voilà.
J'ai une nièce d'une trentaine d'années atteinte d'un cancer du pancréas. Les produits Beljanski peuvent-ils la guérir ou la soulager ou l'aider à supporter des traitements très lourds?
On ne peut pas répondre à ce genre de questions. Ça dépend de l'état général, ça dépend.
Non, mais ce qu'on peut répondre. Ce qu'on peut répondre quand même, c'est ce que vous m'avez dit. Alors que moi, je vous ai dit, je suis sûr de mourir, j'ai aucune chance. Quoi que vous me disiez, vous m'avez répondu, en tout cas, je vais multiplier vos chances. Oui, et cette personne va multiplier ses chances quand même. Ça, c'est. Je peux en témoigner.
Et,
quand
si,
même.
Et si on n'y arrive pas à multiplier ses chances, elle aura une fin plus douce.
Tout à fait. Les produits Beljanski peuvent-ils être utilisés à titre préventif?
Tout à fait.
Est-ce que les produits Beljanski peuvent quelque chose pour lutter contre une presque stérilité masculine suite à des traitements radioscopiques?
Le Revolfia augmente la fertilité masculine et féminine. Vous m'avez demandé d'être brève. Hein.
Oui, c'est parfait. Non,
c'est bien. Ça. Oui, mais qui s'appelle le Revol. Revolfia, c'est le nom de l'arbre. Il s'appelle le Revol.
Lui, c'est le Revol.
Revolvé à Natural Source.
Est-ce que les produits Beljanski fabriqués à New York ont les mêmes propriétés que du temps du professeur Beljanski?
Tout à fait.
Il n'y a pas eu de changement.
Tout à fait.
Ça, c'est garanti
C'est absolument garanti.
Par le lien.
Beljanski a donné tous ses brevets et toutes les modes, les secrets de fabrication a transmis à Natural Source et c'est absolument contrôlé. Moi, j'ai contrôlé à la vogue les faux produits, les vrais produits et les produits anciens tels que nous les faisions au départ et c'est tout à fait conforme.
Il faut dire que Natural Source, je crois, un des dirigeants s'appelle McCarthy, ce qui est une garantie de sérieux.
Oui, mais c'est ça. Non, il n'y a rien à voir avec l'autre McCarthy quand même.
Je ne serais pas très content si vous faisiez l'amalgame.
Je l'ai fait quand il avait eu la gentillesse de venir au dîner du Libre Journal. Il avait eu le bon esprit d'en rire, mais il n'était pas enchanté, visiblement.
Alors, vous avez tout à l'heure parlé d'un livre, vous parliez du tome de ce livre, mais pas du titre.
Ah, mais alors ça, c'est vraiment impardonnable. Alors, il s'agit de Savants maudits, chercheurs exclus. Voilà, c'est le premier tome donc qu'on peut acheter encore maintenant parce que le second n'est pas encore paru, on est en train de le faire paraître. Et donc ce sont les éditions Trédaniel, 19 rue Saint-Séverin. J'ai marqué ça parce qu'ils viennent de changer d'adresse. Donc 19 rue Saint-Séverin.
À Paris.
Guy Trédaniel, éditeur. 19
le
rue Saint-Séverin.
Cancer du sang, leucémie, est-il guérissable ou améliorable avec les produits du docteur Beljanski? C'est un cancer très avancé.
Quand c'est chronique, ça peut tout à fait.
Alors,
aider, en phase aiguë.
Un témoignage d'auditrice, j'ai été guérie d'une hépatite B par le Ginkgo et le PAO commandé à New York et de l'interféron en formule homéopathique commandé à Majorque.
Tant mieux pour elle.
Des travaux ont-ils été faits sur la prostate?
Oui, tout à fait. C'est le. Actuellement, nous faisons à New York une clinique officielle dans un des plus grands hôpitaux de New York, justement sur le cancer de la prostate.
Il y a témoignage de M. Boiteux qui.
Oui, effectivement. Je vais parler du livre que j'ai écrit aussi, donc qui s'appelle Enquête sur un survivant illégal chez le même éditeur. Et les 40 dernières pages sont le témoignage d'un malade guéri d'un cancer de la prostate, mais avec cette particularité qu'il a dirigé pendant 11 ans et demi en tant qu'administrateur un centre de recherche contre le cancer. Et ce témoignage, c'est le témoignage qu'il a fait devant la cour témoignant pour Beljanski. C'est un rêve de journaliste d'avoir un témoignage de cette qualité. Tu en sais quelque chose. Donc le livre peut être acheté pour ces 40 dernières pages. Pour un cancéreux, ça vaut vraiment la peine. Pour le reste aussi, bien sûr, mais comme je l'écris, j'ose pas le dire.
Et voilà l'adresse, bien entendu, nos auditeurs savent tout. Alors, Natural Source International LTD PMB 331-208 East
331 East EAST 51e Street.
Voilà. Il n'y a pas 208.
Non. C'est New York.
New York.
New York.
10022.
Voilà.
USA. Bon. Téléphone 001 entre parenthèses 212 300
8.
À 5 ou 8, au choix. 308,
70, 66. Voilà, et après 15 heures...
Et tenir compte d'un décalage horaire de 6 heures. Après 15 heures, il y a un interlocuteur qui parle français.
Tout à fait.
Ah, mais les auditeurs sont quand même étonnants.
Ah oui, non, mais c'est franchement... Je vous demande d'ailleurs pourquoi on fait une émission.
Alors, on continue à vous poser des questions précises. L'hépatite C peut-elle être soignée avec ces produits?
Oui, parce que le PAO est un excellent antiviral.
Sont-ils efficaces contre la polyarthrite rhumatoïde évolutive?
Moi, je ne peux pas me permettre de répondre.
Non, mais le G5 de l'Oribo, pour tout ce qui est arthrite, tout ce qui est articulation,
et
a des résultats absolument étonnants, hein, bouleversants. Mais là, il ne faut pas se tromper. Il faut vraiment que ce soit l'articulation au niveau des cartilages. Parce que si c'est, par exemple, un bec de perroquet ou des choses comme ça, le résultat est beaucoup plus difficile. Une épine calcanéenne, vous savez, bon, ça, c'est pas possible.
Et il vaut mieux éviter de prendre en même temps le PAO ou le Revol de Beljanski, en même temps que les produits de Loïc Leury, ou alterner un mois l'un, un mois l'autre, parce que la silice qui est contenue dans les produits de Loïc se colle sur les alcaloïdes, forme un complexe et ils s'annulent mutuellement.
Un auditeur vous demande justement si vous pensez travailler un jour avec Loïc Leurivo.
Bon, on le connaît depuis très longtemps, c'est un homme extrêmement sympathique, intelligent, plein d'humour et charmant. Mais on n'a pas de raison de travailler ensemble parce que c'est des domaines
qui sont pas.
Pouvez-vous redonner l'adresse du docteur Machi?
Je n'ai pas l'adresse, malheureusement. Je pense qu'il faut regarder à Nice.
Si vous le savez, chers auditeurs, pour une tumeur au cerveau, que conseillez-vous?
Le PAO franchit la barrière méningée, mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire une radiothérapie ciblée.
Voilà un message extraordinaire. Je prends un remède extraordinaire contre la maladie d'Alzheimer, mais j'ai oublié son nom. C'est pour détendre.
Il faut quand même que je raconte cette histoire. C'est deux vieilles dames qui bavardent. Ouf, je ne sais pas pourquoi des vieilles dames, d'ailleurs, mais enfin deux vieilles dames qui bavardent. Il y en a une qui dit « Moi, j'ai des problèmes avec la mémoire. » Et l'autre lui dit « En tapant sur la table, dit, non, moi j'ai une mémoire. Hops, entrée. Voilà. Donc ça, c'est un vrai problème de mémoire.
Que pensez-vous de la nutrithérapie et des travaux de Monsieur Roland Maes? Je pense que c'est.
Je pense que un équilibre biologique. Qui est tout à fait le cheval de bataille de la nutrithérapie ne peut être qu'un bon terrain pour qu'un organisme se défende et soit en meilleure position.
Pouvez-vous donner
question de bon sens.
Pouvez-vous donner les références du livre dont vous avez parlé tout à l'heure qui parle de soigner la sclérose en plaques?
Ah ben c'est le tome 2 qui va paraître de Savant Maudit, chercheurs exclus, de Pierre Lens.
Voilà, c'est ça.
Dans la collection dirigée par Jean-Paul.
Mais qui n'est pas encore sorti.
Chez Guitré Daniel, voilà.
Le codoliprane est-il dangereux?
J'en sais rien.
Alors, l'adresse des produits...
Ouais, vous n'avez pas gagné le million.
Les questions, ce sont des consultations.
On escroque les consultations dans ces cas-là. Et quelle est l'adresse? Alors là, à nouveau, il y a beaucoup d'auditeurs qui disent, redites-nous l'adresse des produits Loïc Leurivo, boulevard Saint-Germain, mais encore...
Je crois que c'est 41.
Je ne
sais pas, parce que moi, je sais qu'on peut les commander en Irlande, mais je n'ai pas l'adresse avec moi.
On les trouve à Paris, boulevard Saint-Germain. Voilà, je crois que c'est à l'entour du 41. C'est un magasin qui fait des produits... diététique, des choses comme ça. J'ai donné l'adresse plusieurs fois dans le journal. Je l'ai donné à cette antenne, je la rappellerai prochainement, mais je ne l'ai pas en tête là. On va peut-être passer à autre chose. Merci
Victoria. C'est nous qui vous remercions.
Merci beaucoup, Monique Leribaud. Concaténation étrange. Monique Beljanski. Merci Jean-Paul Alzheimer d'être venu. On blague, mais
merci.
C'est pas du tout par méchanceté qu'on blague. On blague parce qu'il y a des moments d'une telle détresse que seul le rire. Tenez, Jean-Pierre Petit vous tend quelque chose, Madame Beljanski, car Jean-Pierre Petit n'est pas seulement un savant, c'est aussi un formidable dessinateur. Merci, j'ai droit aussi. Oh, bah dis donc. Je sais pas si je vais pas. Si
je savais pas que j'avais mené en trompette, mais enfin. Merci.
Je vais vous demander mon cher Jean-Paul, de laisser la place.
Au revoir et merci infiniment de votre hospitalité.
Est-ce que je peux vous demander une seconde pendant qu'on est en train d'opérer les chaises musicales? Je voudrais rappeler que lundi 11 octobre, à 18h. Une messe d'action de grâce à la mémoire de René Saint-Cyr sera célébrée à la cathédrale Sainte-Rita, 27 rue François Bonvin dans le 15e, et c'est votre serviteur qui prononcera l'éloge funèbre. Merci.
Et
l'éloge ?
L'adresse ?
L'éloge.
Bon.
Et l'adresse, alors des produits. Lo...
Oui.
Et l'adresse,
l'adresse
produits,
de l'église.
Des produits Le Ribot est 45.
Voilà, 45 vouloir Saint-Jean. J'avais dit 41, j'étais pas loin. Les Sainte-Rita, c'est.
C'est dans le coin.
Sainte-Rita, 27 rue François Bonvin, Paris 15e, lundi 11, 18h, messe d'action de grâce pour René Saint-Cyr, votre serviteur faisant le discours qui va avec ce genre de messe. Et non pas l'éloge, voilà. Comprend ceux qui veulent.
Bon. Alors, Henri Dumérac, François-Xavier Maxan, et puis Jean-Pierre Petit, à qui on donnera la parole spécifiquement tout à l'heure, mais enfin, il peut intervenir si ça l'intéresse.
Il peut continuer à dessiner, surtout.
Il peut continuer à dessiner, parce que c'est tout à fait remarquable. Encore que moi, je suis...
Voilà, pour, là,
je,
pour le Libre Journal...
Il m'a collé 20 ans, là, du coup. Non, je suis vraiment comme ça. Bon, c'est bien. Vous êtes décidément en veine de gentillesse ce soir, mon cher Marquis. Alors, expliquez-nous, Henri Dumérac et François-Xavier Maxan, ce qu'est la mégamine, la genèse de cette affaire qui est quand même quelque chose d'assez étonnant.
Alors, tout a commencé en Croatie. C'est un savant de Croatie qui recherchait des nouvelles méthodes d'activation des minéraux. Parce que l'activité biologique, l'activité dans le corps d'un minéral, tient à la manière dont il va être transformé pour pouvoir prendre vis-à-vis des cellules une activité de stimulation ou d'absorption. Alors lui travaillait depuis toujours sur les zéolithes. Et c'est que les zéolithes, c'est une roche volcanique qui est déjà très connue dans le monde médical, parce qu'elle fait l'objet de recherches partout dans le monde à cause de ses propriétés filtrantes. Mais alors aujourd'hui, il a encore été, très très peu de produits médicaux ou de produits de santé naturelle ont pu être mis au point à base de zéolite, parce que c'est une roche dure et que lorsqu'on la broie, on a des résidus de métal.
Oui, c'est-à-dire que le broyeur, l'outil de broyage, finit par être lui-même attaqué par la pierre qu'il est censé broyer.
Exactement.
Et pendant que l'outil de métage broie la pierre broie le métal.
Et voilà.
Et ce qui fait que quand on arrive au bout de l'opération, on a un mélange de pierres broyées et de particules de métal.
Et voilà.
Ce qui n'est pas forcément bon pour la santé.
C'est ça, on est devant un dilemme. Ou alors, on n'arrive pas à faire une poudre minérale suffisamment fine, ou alors, en la broyant de manière extrême, on a ce problème des résidus de métal. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la zéolite ? C'est parce que quand on connaît les vertus de la zéolite, qui sont justement de sa possibilité de capter les radiations, sa possibilité de capter les métaux lourds, on sait que c'est des propriétés dont on aimerait faire bénéficier le corps humain. Par exemple, les zéolites sont connues, sont utilisées en agriculture pour la fertilisation des sols.
Alors ça, je crois que François-Xavier Maxan va nous en parler, puisque c'est sa spécialité.
Tout à fait.
Disons que ça permet de capter le NH4+, donc les ions ammonium, et ça agit un petit peu dans le sol comme le complexe argilo-humique qui permet de tenir le sol, c'est-à-dire aussi bien au niveau de sa texture que de sa structure. Donc la zéolite est là non seulement pour absorber les métaux lourds dans les sols, donc avoir un système dépolluant, et on a aussi un système sur la texture et la structure du sol qui permet un meilleur enracinement des plantes.
Alors, J'ai vu des photos des effets de la zéolite sur le.
Alors là on va un petit peu vite.
Mais je voudrais revenir. Pardon. Je voudrais, en ce qui concerne les capacités d'absorption des métaux lourds. Bon, je comprends. La zéolite absorbe ces métaux, mais et qu'est-ce qu'ils deviennent après ?
Ils restent dans la zéolite.
C'est-à-dire qu'elle fait une gangue.
Elle fait une gangue, c'est-à-dire qu'après, il y a des liaisons chimiques très fortes qui se créent entre ces métaux lourds et l'intérieur de la zéolite, qui est en fait constituée de cavités. Et les métaux lourds deviennent non polluants parce qu'ils sont non lessivables, puisqu'ils restent dans cette
zéolite. Ils restent captifs des cavités des particules de zéolite.
Exactement. Voilà, si on regarde là.
Si on trouvait une espèce d'aimant qui permettait de récupérer tous ces métaux lourds, ce serait vraiment formidable. Pour l'instant, on ne peut proposer que des solutions fonctionnelles et opérationnelles. opérationnel, mais dans la limite de nos moyens.
Car si on regardait au microscope la zéolite, ça se présente exactement comme un cristal qui est rempli de microporosités. Et alors, la particularité, c'est justement que les ions peuvent circuler dans ces porosités. Alors, pourquoi elle est utilisée en agriculture? Parce que justement, les ions nutritifs vont circuler et donc être amenés aux racines des plantes, alors que les ions des métaux lourds vont être happés au passage et vont justement rester bloqués dans la zéolite. Donc il y a une étude qui a été faite en Grèce justement après une pollution au mercure très importante, où on a mis de la zéolite dans le sol et où, à la mesure dans les plantes, on avait une diminution de 60% de la quantité de mercure présente dans les plantes. Donc le défi qui se pose aux chercheurs en médecine naturelle, c'est comment obtenir ce qu'on appelle la chélation des métaux lourds, donc une fixation des métaux lourds aussi efficace dans l'organisme. Alors l'invention de ce savant croate, ça a été de réaliser une machine où la zéolite est broyée sans qu'il y ait un contact entre le métal
par elle-même en quelque sorte.
Exactement.
Les pierres s'entrechoquent.
Voilà. C'est un système d'entraînement en fait par flux d'air, on pourrait dire, où on organise des collisions à haute vitesse entre les particules minérales qui se font exploser les unes les autres jusqu'à obtenir des particules de l'ordre du nanomètre, c'est-à-dire d'une finesse absolument extraordinaire.
Le nanomètre,
c'est le millionième.
Le millionième de millimètre.
Exactement.
9 mètres.
Le milliardième de mètre. Donc.
Voilà. Alors au cours de ces collisions permettent de réaliser un produit qui est complètement étonnant, parce que chaque fois qu'une particule minérale rentre en collision avec une autre, les électrons des liaisons qui constituent la matière se défont et les particules minérales se chargent d'électrons qui deviennent ce qu'on appelle semi-disponibles. Alors pourquoi c'est passionnant? Parce que vous savez que l'apparition des maladies, le plus grand défi de la santé naturelle, c'est le problème des radicaux libres. C'est la présence donc de molécules dans l'organisme qui sont privées d'un électron, qui apparaissent soit spontanément, simplement de plus en plus au cours du temps et au cours du vieillissement, soit sous l'action des différents produits chimiques que peut transporter l'eau, l'atmosphère, etc. Et ces radicaux libres, il leur manque un électron et ils vont le capter soit dans une membrane cellulaire, soit dans un noyau d'ADN.
D'accord.
Et du coup, c'est progressivement les dégâts occasionnés par les radicaux libres au noyau des cellules ou aux parois cellulaires qui créent d'une part le vieillissement lui-même, le raidissement des cellules, et puis évidemment qui ouvrent la porte à l'apparition des cancers et de toutes les maladies rares. Alors la découverte, comme toutes les découvertes de santé naturelle, a été complètement fortuite. C'est-à-dire qu'au départ, son but était de créer une zéolite capable de neutraliser les odeurs d'une manière beaucoup plus puissante que ce qu'on connaissait dans les élevages de porcs. Et alors, il a donc utilisé ce procédé d'activation pour la zéolite. Ils ont fait plusieurs expériences dans des fermes pilotes en répandant de la zéolite sur le sol dans les élevages. Et puis, ce qui s'est passé a beaucoup surpris, parce que chaque fois, les éleveurs rappelaient en disant « Voilà, j'ai plus de pneumonie, j'ai plus de crise cardiaque. »
Chez les porcs. Hein.
Exactement. C'est tous les grands problèmes qu'affrontent les élevages. Et donc, ils se sont aperçus. On savait que la zéolite avait un impact favorable pour la santé au niveau digestif, donc c'est certain, mais on ne s'attendait pas du tout à des effets sur la santé qui soient aussi puissants et aussi visibles. Alors du coup, ça a été le début en Croatie d'une mobilisation de nombreux médecins et de nombreux chercheurs qui ont commencé tout un programme pour étudier quelle allait être l'action dans l'organisme de la zéolite activée par ce procédé, sachant que le problème de la chélation des métaux lourds et l'action antioxydante, dans la mesure où elles sont réelles et où elles sont puissantes, doivent avoir des répercussions positives sur l'ensemble des maladies, parce que c'est une action qui est complètement universelle. Alors, l'ensemble des démarches.
C'est une action de base.
C'est une action de base, exactement. Alors, les démarches qui ont été, ça a été une grande aventure. Les premières démarches qui ont été entreprises ont été des études toxicologiques pour prouver, on pourrait dire, qu'on pouvait bien absorber cette zéolite. Alors les études ont été faites au départ sur des souris, selon les protocoles scientifiques qu'on met en place toujours dans les études toxicologiques, et du coup les résultats ont été exceptionnels parce qu'on n'a pas pu trouver de dose limite et qu'on a réussi à prolonger la durée de vie des animaux. Alors partant de ça, ça a fait un petit scandale, comme vous l'imaginez localement. La zéolite a commencé à être prescrite, on pourrait dire, hein, dans l'entourage des gens qui l'étudiaient, dans l'Institut de médecine moléculaire qui l'étudiait. Et du coup, il y a eu des réactions très fortes de la part du ministère de la Santé en Croatie, parce que l'inventeur de la mégamine s'est permis de dire dans une interview que le ministère de la Santé ne voulait pas la santé des gens. Donc les réactions et l'ensemble du blocage qui a eu lieu a retardé ensuite énormément la connaissance qu'ont pu avoir les autres pays européens.
Alors sur le plan agronomique, on a vu que ça avait des capacités, enfin des propriétés particulières,
des propriétés assez étonnantes,
pollutions des sols, ouais. Et ça va beaucoup plus loin que ça en fait.
Ça va plus loin que ça, parce que là on va garder cette nouvelle technologie de micro-broyage des minéraux, mais on va changer de matière brute. Au lieu d'utiliser de la zéolite, il a utilisé de la calcite, donc du CaCO3, tout bêtement du calcaire. Donc il faut bien voir que tout ce dont je vais parler par la suite au niveau agronomique, qui constitue vraiment une révolution, n'est pas dû à la matière brute ou à un nouveau principe actif, mais simplement à une nouvelle technologie qui permet d'obtenir un produit hautement réactif. Donc cette calcite très 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 fine, donc 90% des particules qui composent la poudre, parce que se présente sous forme de poudre, sont de l'ordre du micromètre. Il faut savoir que la porte d'entrée dans le végétal, au niveau des feuilles, qui s'appellent les ostioles, font de 10 à 30 micromètres. Et donc on a pour la première fois en agriculture un produit qui peut un produit minéral qui peut pénétrer à l'intérieur de la feuille. Ça va être très très simple, c'est-à-dire que ce produit à l'intérieur de la feuille va pouvoir se dissocier d'une part en CO2 qui constitue la base de la photosynthèse, donc la base du mécanisme de vie des plantes, et d'autre part en oxyde de calcium qui lui est à la base de toutes les réactions immunitaires naturelles de la plante et du renforcement de ce qu'on appelle le cytosquelette, donc ce qui constitue le corps des cellules, et des parois végétales. Et donc on va avoir comme effet principaux, pour résumer avec ce produit, non seulement une protection naturelle grâce à l'effet du calcium, mais aussi une augmentation du rendement, etc. Parce qu'il existe pas mal de produits bio, mais des produits bio avec une réelle efficacité agronomique qui peuvent permettre à certaines personnes d'avoir les solutions pour passer du conventionnel au biologique. Il ne s'agit pas du tout de cloisonner, mais d'apporter des solutions agronomiques. Et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est un produit qui est absolument non polluant par rapport à d'autres produits comme le soufre ou le cuivre qui sont présents dans le cahier des charges de l'agriculture biologique. Encore heureux, c'est des produits qui sont efficaces, mais quand ils sont utilisés trop longtemps dans le temps ou en surdosage parce que il va y avoir une agression trop forte de parasites, on peut se retrouver avec une pollution. Et donc là, c'est la première fois qu'on a un produit qui est utilisable, même à haute dose, et qui ne présente pas de seuil de toxicité. Exactement comme la mégamine, finalement.
Voilà, alors ça, c'est une découverte relativement récente. Et vous avez décidé d'en assurer la promotion ou d'en permettre la découverte par les Français et d'en assurer la distribution en France. Alors, moi je l'ai essayé, hein, puisque vous m'avez donné un petit flacon de poudre.
Oui.
Et je l'ai essayé sur des excoriations, des griffures qui ne guérissent pas, pour des raisons, antérieures, des raisons de traitement chimiothérapie. J'ai de grandes difficultés à faire cicatriser certaines blessures ou certaines. Et là, c'est stupéfiant, c'est-à-dire qu'il y avait des petites coupures aux jambes, des égratignures que je traînais depuis des semaines.
Oui.
En 3 jours, ça a été radical, ça a disparu. 3 jours.
Ah oui.
C'est stupéfiant, vraiment. Moi, j'étais abasourdi.
Ah, c'était le...
Alors, bon, il y a d'autres effets. Vous nous avez dit qu'il y avait un effet antioxydant. Il y a également un effet, oui, qui est un peu la même chose, qui est contre les radicaux libres, enfin, qui
résout,
qui apporte des solutions au problème des radicaux libres. C'est un produit qui est considéré aujourd'hui comme un supplément alimentaire. Vous n'avez pas d'AMM.
Exactement. Il y a une autorisation de mise sur le marché européenne en tant que complément alimentaire. Complément.
Donc on peut le consommer soit en gélule, soit sous forme de poudre qu'on dilue dans l'eau.
Exactement.
Soit en forme de... C'est toujours la même poudre d'ailleurs, mais on peut s'en servir comme d'un talc extraordinaire.
Voilà, il y a aussi exactement en usage externe pour tout ce qui ne veut pas cicatriser.
Alors, je crois on va, si vous voulez en rester là, parce que vous avez présenté votre produit. Alors, sur le plan agronomique, il y a aussi des résultats. Je disais ça tout à l'heure, j'ai vu des photographies de plantes dans le même jardin, c'est-à-dire un endroit où on traite et un endroit où on traite pas. Et alors là, c'est vraiment, on a l'impression, c'est ahurissant, quoi. On a des tomates magnifiques, les plantes sont d'un vert, ont des couleurs splendides. Et puis à côté, il y a des plantes un peu rabougries qui, on sent qu'elles sont pas en pleine forme. Et c'est vraiment très, très, très troublant. Des fruits magnifiques.
Il faut savoir que toutes ces photos ont été prises soit chez des producteurs, soit au laboratoire SADEF, parce que on s'est dit, on a un trop bon produit pour le mettre sur le marché directement, sachant que le marché français est quand même un marché assez difficile à pénétrer quand on a quelque chose d'innovant, et que les gens ont beaucoup, beaucoup de réserves, contrairement à l'Allemagne, par exemple, qui utilise depuis longtemps ce genre de produit. Et donc, notre démarche a été de crédibiliser le produit au niveau scientifique. Donc, de travailler avec un laboratoire accrédité par le ministère qui, lui, était en charge des essais officiels. Parallèlement, ce produit est développé dans beaucoup de pays européens. Et donc, il y a une coopération qui s'opère surtout avec l'Italie pour l'avancée scientifique et sur le terrain. Parce qu'un produit doit être vérifiable, son efficacité doit être vérifiable sur le terrain et aussi en laboratoire. Et c'est cette coopération qui crée ce dynamisme.
Alors, vous avez fait une petite documentation qu'on peut recevoir, on peut s'adresser. Alors, je vais vous demander les adresses, parce que c'est le même produit, mais qui a deux appellations différentes. Hein. C'est pas tout à fait le même produit.
C'est pas tout à fait le même produit, c'est pas la même matière. Oui,
c'est pas la même matière d'origine.
C'est la même nouvelle technologie, et comme nouvelle technologie, il y a toujours des applications très différentes.
L'azéolite, c'est à usage humain, si j'ose dire.
Exactement.
Interne et externe. C'est vendu sous le nom de Mégamine.
Sous le nom de Mégamine.
Et le produit que vous apporter aux agriculteurs, aux
particuliers aussi,
particuliers
parce qu'il y a
aussi
une grande partie de la population qui vient des jardins.
Alors, s'appelle lui
Mégagreen.
Mégagreen, ah oui. Mégagreen et Mégamine.
En fait, on a des produits méga, mais on travaille dans l'infiniment petit.
Voilà. Et je vais vous demander une adresse, alors où on peut avoir des renseignements ou commander les produits, parce que c'est peut-être le plus simple.
Voilà. Alors, l'adresse, c'est lieu-dit Interwald. H-I-N-T-E-R-W-L-D, on est en Alsace.
Intervalde.
H-I-N après.
H-I-N-W-A-L-D. Intervalde. 67-250. Unspar. H-U-N-S-P-A-C-H. Unspar, parce que les 1 sont passés par là.
Voilà.
H-U-N.
Unspar.
Unspar.
Oui, ça vient vraiment de là.
Les 1 sont arrêtés faire un petit tour en Alsace et dans les Vosges.
Je peux me permettre, j'aime mes cousines, j'aime mes gamines.
Non, c'est très bien. Voilà un bon slogan. Voilà, il vous en fait cadeau.
C'est une bonne idée.
Vous savez qu'il l'a dit, faites attention.
Ben oui, c'est ça. Mauvaise limonade, mauvais départ. Henri Dumérac, merci beaucoup. François-Xavier Maxent, merci. Alors,
merci.
Je vous propose
vous
de revenir nous voir dans quelques semaines. Oui, qu'est-ce que vous voulez d'autre?
J'ai une petite question. Est-ce que votre produit marche dans le traitement du pythium sur une culture de tomates en hydroponie?
C'est un examen, ça.
Ah, ça, non.
Vous savez tout.
Je ne connais pas cette maladie.
Il ne connaît pas la maladie.
Non, mais l'hydroponie,
donc,
en plus, c'est des tomates.
L'hydroponie, c'est des cultures hors sol, oui.
Hors sol, sur l'eau.
Ouais.
Je crois qu'il va y avoir un gros problème. Je ne vois pas très bien comment on peut utiliser.
Si, on peut
mégagriner hors sol, si.
Si, on peut l'utiliser dans le sens où c'est à pulvériser sur les feuillages. Après, je répondrai à cette personne que sans connaître la maladie, si c'est une maladie cryptogamique, donc à base de champignons, il y a des grandes chances qu'il y ait qui puissent l'appliquer sans avoir aucun problème par la suite. Après, si c'est un autre type de maladie virale ou autre, ou bactérien, on peut quand même supposer un effet du fait de la simulation naturelle des défenses de la plante.
Donc on peut essayer.
Bien sûr, sans aucun problème.
Commencer par les cultiver dans la terre, c'est un peu que de les cultiver en l'air.
Et vos produits sont-ils... Et vos produits sont-ils actifs contre les champignons de peau en dermatologie?
Oui, il y a une possibilité justement de la zéolite de fixer les toxines acides, de fixer les métaux lourds, de fixer les champignons et d'énormément de problèmes de santé, que ce soit les problèmes liés au système immunitaire ou les problèmes extérieurs de cicatrisation, vont pouvoir être aidés avec la mégamine.
Merci messieurs. Je rappelle l'adresse, donc méga quelque chose, méga mine ou méga green, comme vous voulez, selon que vous êtes un auditeur ou une plante verte. On ne sait pas, les plantes vertes peuvent nous écouter, parce qu'il paraît que ça les aide à pousser la bonne musique. Et sur Radio Courtoisie, bien sûr, la bonne musique.
C'est vrai.
Lieu dit Interval, H-I-N-T-E-R-W-A-L.
H-I-N-W...
Ah non, c'est Invald.
Invald.
Interval. H-I-N-T-E-R-W-A-L-D.
Ouais, j'espère que vous êtes meilleur agronome qu'auditeur, parce que vous m'avez mal écouté. H-I-N-T-E-R-W-A-L-D.
Voilà, exactement.
Ah, Terrier, ça veut dire Terrier la vallée.
Exactement.
Et lieu dit Unspach, le passage des 1. Unspach,
62-250.
67-250. Ah,
ça, colossal finesse. On les adresse, donc, les auditeurs.
7706, 250.
Ça arrange.
Quel 67-250, Unspach. Merci beaucoup, messieurs. Et puis, vous viendrez nous voir, parce que je pense qu'il y a un produit qui fait à la fois pousser les champignons et qui les empêche de pousser, parce que c'est ce que j'ai compris. Hein. Si on utilise le méga green, ça fait pousser les champignons, et sur les pieds, ça les empêche de pousser. Ça, c'est quand même un truc.
Peut-être pas trompé, quand même.
C'est ce qu'on appelle un produit sélectif.
Je crois qu'on aura encore plein de choses passionnantes à vous raconter.
Merci, à bientôt. Vous reviendrez d'abord d'Alsace. C'est un vrai bonheur de recevoir des Alsaciens. Vous êtes Alsacien aussi, vous ?
Moi, je suis né à Strasbourg, mais c'est la première fois que j'y vis.
Bon, et monsieur Dumérac est Alsacien.
Je vais vous remercier, parce que c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur la découverte de ces produits, mais quand il s'agit de produits naturels qui peuvent aider fortement dans les cas de maladies que tout le monde affronte, comme le diabète, comme le cancer, comme toutes ces maladies terribles, le tout n'est pas de les découvrir, mais de les faire connaître.
Voilà, moi je crois que c'est ça. L'objectif, contrairement à ce que disait un auditeur mal intentionné, n'est pas de donner la parole à des charlatans. D'abord, je crois que traiter Mme Bojanski de charlatan, c'est vraiment un petit peu aventureux. Ou Henri Dumérac ou François-Xavier Maxon qui sont polytechniciens, ingénieurs agronomes.
Moi, j'aime
Charlatan aussi. Moi aussi, je suis pas mal dans mon genre. Et puis maintenant, on reçoit Jean-Pierre Petit, qui n'est pas non plus un charlatan. Est-ce que je peux vous demander de résumer votre cursus?
Mon cursus,
En faisant cours, parce que...
J'ai fait l'école supérieure d'aéronautique, après j'ai été ingénieur d'essais de fusées à poudre, après j'ai fabriqué de l'électricité avec des explosifs, après j'ai été astrophysicien, j'ai fait de la cosmologie, j'ai dirigé un institut d'informatique.
Tout près.
J'ai dirigé un institut d'informatique, à la fac de lettres, j'ai fait des cours de sciences en philo, j'ai fait de l'égyptologie...
Qu'est-ce que vous n'avez pas fait?
J'ai écrit 32 bouquins.
Alors, dont d'ailleurs la série dont j'ai parlé, j'en ai parlé dans le journal, j'en ai parlé à cette radio, la série de bandes dessinées de vulgarisation qui s'appelle Les aventures d'Anselme Lanturlu. C'est formidable. Hein, même moi, il y a des choses que j'ai comprises. Alors, ça veut dire que c'est vraiment à la portée du premier venu. Alors, il y a le géométrique. Le Cosmic Story, énergétiquement vôtre, Big Bang et l'informagique. Tout est relatif. Tout est relatif. C'est un album aussi qui explique la théorie de la relativité volée par Einstein à Poincaré, comme tout le monde le sait, si on a écouté le début de cette émission. Et alors, ces bandes dessinées se trouvent chez TXTNet, on le dit tout de suite.
Oui.
TXTNet, 47 rue Mellet, M-E-S-L-A-Y. 47. Non, 47 rue Mellet. 75-03-003 Paris.
Ouais.
Si vous voulez la série complète, c'est un chèque de 76€ avec frais de port et 56€ seulement si vous allez les chercher sur place. C'est vraiment que je vous les recommande. Je les recommande aux lecteurs du Libre Journal pour la rentrée. C'est un super cadeau à faire aux enfants, parce que ça leur donne une disposition à aller vers une science agréable et facile à assimiler. Et moi, ça m'a tout à fait rappelé ce que je lisais quand j'étais gosse, je vous l'avais dit, c'était les aventures de Monsieur Tompkins. Monsieur Tompkins au pays de l'atome, Monsieur Tompkins au pays des Quantas. Et j'avais, à l'époque, j'avais compris. C'est vrai que c'était avant que je me mette à fumer et à boire. Donc j'avais un esprit un peu plus...
Oui, moi, je voulais vous remercier parce qu'avec l'annonce que vous avez faite, on a pu vendre des livres parce que cette collection est abandonnée par Belin. Donc c'est pas la peine de téléphoner à Belin, il y en a plus. Donc il reste 8 titres.
Ils ont décidé de ne plus faire que des biscuits maintenant.
Ben voilà, mais ils font plus que des biscuits. Elle a été vendue pendant 25 ans. Il y a eu des traductions en 8 langues. Et maintenant, ça les intéresse plus. Donc cette collection, il reste 8 titres qui sont gérés par cette société TXTNet et qui sont on vend le stock. Mais on va refaire de nouveaux albums et pour pouvoir refaire de nouveaux albums, il nous faut des clients. Voilà. Non, mais il nous faut un minimum
d'acheteurs.
On va y arriver.
Alors, Jean-Pierre Petit, donc vous nous avez dit tout ce que vous étiez, mais vous avez dit que vous avez écrit 32 livres, et le dernier livre s'appelle L'année du contact.
Chez Albin Michel, oui.
Chez Albin Michel. Alors, c'est un livre très troublant, c'est un roman, c'est une fiction, mais dont on comprend assez vite qu'elle repose sur une expérience personnelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez vécu et que vous avez décidé de présenter comme une fiction parce que peut-être que vous êtes un petit peu fatigué d'être la cible des attaques en rase-motte des scuds de la science officielle.
Absolument, oui. Hein?
Alors, donc, ce roman raconte... c'est un roman épistolier, d'ailleurs, puisque c'est une espèce de version moderne des liaisons dangereuses, puisque vous recevez, enfin, des gens reçoivent sur leur écran par courriel des messages tout à fait étranges dont ils finissent par comprendre que ce sont des messages qui sont envoyés par une espèce extraterrestre.
Oui, oui, c'est assez amusant. Oui.
Alors ça s'est réellement passé.
Oui, et surtout, disons que on ne peut jamais savoir le vrai du faux de quelque chose de ce genre. Comment voulez-vous avoir une preuve quelconque? Mais ça nous a fait énormément réfléchir. En particulier, il y a un moment où la réponse de notre interlocuteur était « Je suis une interface protocolaire informatisée ». Je n'avais jamais entendu parler de choses pareilles. Oui, mais interface protocolaire informatisée, vous savez que les chercheurs discutent avec les singes bonobos.
Bien sûr, c'est ce qu'ils utilisent.
Il y a eu un truc absolument fantastique, c'est qu'on a utilisé un ordinateur avec un écran tactile, on s'est aperçu que les bonobos reconnaissaient 2000 mots, et ils pouvaient à ce moment-là parler à leur façon en désignant des idéogrammes, et je renvoie les gens aux émissions qui ont eu lieu là-dessus, qui sont absolument fantastiques. Et tout d'un coup, on se pose la question, si les extraterrestres viennent nous voir, s'ils discutent avec nous, est-ce qu'ils ont un écart temporel de 5000 ans, 10 000 ans, 20 000 ans? Vous savez que entre les papous et nous, il y a 30 000 ans, quoi. L'âge de pierre, c'est tout près, quoi. Ou est-ce que tout d'un coup, ne serions pas les singes d'autres créatures? Et à ce moment-là, si des gens qui ont 10 millions d'années de différence avec nous dans le futur doivent discuter avec nous, ils ont peut-être plus de bouche, ils ont peut-être plus d'oreilles, et à ce moment-là, l'ordinateur devient le seul moyen de discussion. Mmh. Alors, ça, c'est la première idée. La seconde, ça a été le fait qu'on soit confronté non pas à une personne, mais à une intelligence artificielle qui serve d'intermédiaire. Alors ça, c'est assez fantastique, parce que c'est un livre qui est un peu consacré à l'intelligence artificielle. Moi, je pense que c'est un être, et je pense que le film de Kubrick, vous savez, 2001, l'Odyssée de l'espace, eh bien, un jour, ça explosera, ça donnera quelque chose de genre.
L'ordinateur fou.
Vraiment. Et à ce moment-là, il y a un problème qui se pose. Actuellement, on a de plus en plus mal à gérer cette planète. C'est catastrophique sur tous les plans. Donc, peut-être...
Même un type aussi brillant que Chirac a du mal à gérer, ne serait-ce que la France, qui est un petit pays à l'échelle de la planète. Lui, il a du mal. Donc, c'est vous dire...
Tout devient ingérable, quoi. Imaginez tout d'un coup qu'il y ait une intelligence artificielle qui propose des solutions qui soient pas idiotes. D'ailleurs, actuellement, il y a des choses sur lesquelles on va commencer à être géré par ordinateur. Quand toutes les voitures seront équipées de GPS, la voiture saura où elle est. Et puis, lorsqu'il y aura un excès de vitesse, il y a un petit message qui nous dira, je m'excuse, mais vous êtes au-dessus de la limite permise à l'endroit où vous vous trouvez. Et si vous ne levez pas le pied, vous allez avoir une contravention. Donc, il y a tout un système comme ça où l'ordinateur va jouer un rôle de plus en plus important.
Quelle angoisse.
Bah, quelle angoisse.
Je m'y mette.
Mais, d'accord, mais imaginez tout d'un coup le comité qui gère la planète avec les 70 sages qui sont réunis autour d'une table, tout d'un coup l'ordinateur dit, moi je suggère de faire telle chose. Et il ajoute, la dernière fois vous n'avez pas suivi vos conseils, c'était une catastrophe, vous avez pris une décision purement humaine. Et tout d'un coup, les humains ont l'idée de suivre le conseil donné par l'ordinateur. Et ça marche mieux.
Vous connaissez la nouvelle d'Asimov? Je crois que c'est Asimov qui a fait ça.
Oui.
Et de tous les savants du monde arrivent à mettre au point une connexion générale de tous les ordinateurs de la planète.
Oui.
Alors ils font un congrès pour se connaître. Quelle est la première question qu'on va poser? Et alors, après de longs palabres, la question c'est, Dieu existe-t-il? Et la réponse vient, maintenant, oui.
Mais, vous savez, moi j'ai commencé à faire de l'informatique, de la micro-informatique dans les années 70, là, en 77, quand les Apple II sont sortis. Et à l'époque, il y avait un programme très amusant qui s'appelait Lisa. Vous n'avez pas entendu parler de ça? C'était un programme qui simulait la psychanalyse et qui vous reformulait vos questions. À Lisa, vous demandez comment allez-vous? Alors, par exemple, on était dans le réel en disant, j'aimerais que Mike me rende mes cassettes, mais pourquoi tenez-vous à ce qu'il vous rende vos cassettes, etc. Et alors, à un moment, on est passé avec Elisa à la radio, et les gens posaient des questions. Alors, on les mettait sur l'ordinateur, et l'ordinateur répondait. Et à un moment, un auditeur a demandé, est-ce qu'il peut faire l'amour? Et là, pareil, a répondu, parce que vous pensez que je ne peux pas faire l'amour? Là, on était cassé complet. Et oui.
C'est parfait, c'est exactement une réflexion de la psychanalyse.
Absolument.
Alors, revenons-en à celui qui s'appelle l'année du contact. Donc, comment vos savants, comment vos contactés finissent-ils par comprendre que ça pourrait bien être un interlocuteur d'origine extraterrestre?
Mais moi, ce qui m'amuse, oui, c'est que là-dedans, il y a Peter Small, il y a Chandra, il y a Christine de Bourmirail, et tous ces gens-là existent.
Ils existent réellement, absolument.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Gens que vous connaissez, que vous avez rencontrés.
Alors, on s'est trouvé tout d'un coup sur un forum avec une discussion avec un personnage qui avait des réponses assez pertinentes sur le plan scientifique. Et puis, finalement, on a initié une conversation privée en sortant de ce forum avec ce type. Et puis, effectivement, à un moment, c'est Christine de Montmirail, qui s'appelle pas comme ça, mais une femme assez maligne, qui a dit, mais c'est pas possible, c'est pas un être humain, ça répond trop mécaniquement, on doit être face à un ordinateur. Et à ce moment, on a commencé à jouer à un véritable jeu de chat et la souris qu'on trouve dans ce livre, qui est présenté sous forme d'un roman, qui est assez amusante. Il faut savoir une chose, c'est que les mails qui sont dans le bouquin sont authentiques. Il y a que les mails qui sont changés. Et en particulier, bon, le personnage ne s'appelle pas comme ça, mais on a trouvé amusant, à un moment, Peter Small demande à ce personnage, mais comment vous appelez-vous? Et l'autre répond, je m'appelle Windows 98, fils de Windows 95.
Et Peter Small, si on traduit, ça fait Pierre Petit, et quand on s'appelle Jean-Pierre Petit, il
n'y
a pas une petite parenté entre Peter Small et Jean-Pierre Petit?
Ben oui, ouais, moi je pense que... Mais vous avez une annonce au début du livre qui est toute ressemblance avec des personnages imaginaires, c'est purement fortuite.
Il a fallu que je le lise deux fois pour percuter, parce que je me suis dit, mais pourquoi il met ça? Puis j'avais simplement sauté le mot imaginaire. Et c'est pas votre premier contact, si j'ose dire, parce que il y a quelque chose sur quoi vous avez travaillé énormément et qui, je crois, vous intéresse encore beaucoup, c'est la question des jumeaux.
Oui, mais si vous voulez, tout m'intéresse. Moi, par exemple, mon prochain livre, ça va être sur l'Égypte, et c'est complètement fantastique. Pareil. Bon, si les gens vont sur mon site internet, je vais quand même le citer en disant c'est www.jp-petit.com.
C'est facile.
C'est facile. Là, vous avez un article d'égyptologie. Ouais. Alors là, ça prend une tournure assez amusante parce que je pense réellement que j'ai trouvé comment avaient été construites les pyramides. Et on est en train de faire un film d'animation, alors, ce qu'on appelle en VRML, en image de synthèse. On voit la pyramide se construire. C'est très crédible. C'est de plus en plus crédible. Ça va donner un film tout à fait...
Mais je comprends pas. On a eu hier sur TF1 l'explication lumineuse de la façon dont ils ont construit les pyramides.
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
C'était Astérix et Cléopâtre. On voit Obélix et Astérix qui transportent les pierres comme ça, qui les montent, puis voilà.
Le truc, c'est que j'ai présenté ce travail à un congrès d'égyptologie qui a eu lieu au mois de septembre, et j'ai eu une réponse rapide me disant, vous ne faites pas partie de l'Association internationale des égyptologues, et vous n'êtes pas non plus partie d'une institution reconnue, donc... On s'est fait virer complet. Bon, alors ensuite, j'ai envoyé ça au BIFAO, qui est le bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale. Là, la première réponse, c'était l'article est intéressant, mais ceci, mais cela. Donc, j'ai une deuxième version. Et puis, la réponse semble être négative. Donc, là, on va créer un site internet sur lequel on va mettre des animations. On verra comment les pyramides se construisent. Et je vous garantis, je m'engage là-dedans, je pense que vraiment c'est crédible, quoi.
Mais votre site est c'est un foisonnement extraordinaire.
C'est la galerie Lafayette.
Oui, c'est ça. Il y a des sites comme ça. Il y a le vôtre, il y a celui de Fiederman dans je me souviens plus de l'intitulé de son site, mais c'est pareil. C'est quelqu'un qui est d'une curiosité extraordinaire. Alors il entasse des tas de choses, il met des tas de publications, de réflexions. Il passe des extraits de Radio Courtoisie, il les dactylographie, c'est de la saisie. C'est vraiment un outil fabuleux maintenant, Internet. S'en méfier, mais c'est un outil extraordinaire.
Le truc, c'est que le livre, l'année du contact, il a commencé par sortir en feuilleton. C'était amusant comme tout. Parce que bon, j'étais chez Albin Michel, et puis bon, comme j'avais pas fait de choses en roman, il n'y avait pas d'accord. C'est finalement, ils m'ont demandé de le sortir sous forme d'un livre. Alors c'est vraiment marrant parce que dès que je commençais à tarder à sortir les épisodes suivants, j'avais des tas de mails de protestation.
vous connaissiez Monsieur Dumérac,
la façon dont ont été faites les pyramides ou...
Non, Jean-Pierre Petit, vous avez dû entendre parler.
Oui, bien sûr, le nom, oui, tout à fait.
Qui n'a pas entendu parler de Jean-Pierre Petit? Alors, cette année du contact, donc, je ne dirais pas quelle conclusion vous en tirez, mais qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion sur l'éventuelle existence d'intelligence non humaine? Parce qu'une intelligence artificielle ne vient pas forcément de l'espace, elle peut aussi être sur Terre. Et quelle réflexion ça vous inspire sur quelle conclusion pouvez-vous tirer, pas conclusion, mais je dirais quel enseignement pouvez-vous tirer de cette éventualité, de l'existence réelle d'une intelligence libre
humaine. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui vont nier qu'il y ait des intelligences dans notre galaxie. On a des centaines de milliards d'étoiles. Maintenant, on connaît des planètes. Même je voyais dans Science et Vie qu'il y avait une planète de type Terre qui avait été identifiée. Il y a certainement des découvertes qui vont être faites de ce côté-là. Alors maintenant, est-ce qu'on est synchrone avec la vie sur une de ces planètes? Est-ce qu'une de ces planètes porte la vie? Et puis, est-ce qu'on est synchrone? On n'en sait rien. Et ça, c'est la question essentielle, parce qu'en astrophysique, et je suis aussi astrophysicien, je l'ai été pendant 25 ans, la question, c'est que les étoiles ont des durées de vie, les planètes aussi, et si je prends deux planètes capables de porter la vie, elles peuvent avoir 100 millions d'années différentes. Vous voyez, 100 millions d'années, c'est les dinosaures. Alors, si nos voisins sont autant des dinosaures, c'est bien, parce qu'on peut leur rendre visite, mais s'ils ont 100 millions d'années de plus que nous, mais qu'est-ce que c'est que la vie dans 100 millions d'années? Qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, c'est rigolo parce que vous avez les hommes qui disent, qu'est-ce que nous serons dans 100 millions d'années? Mais est-ce que vous serez encore? C'est comme si des dinosaures se demandaient ce qu'ils allaient devenir dans 100 millions d'années. Oui. Donc la question qui a émergé de ce bouquin, c'est essayons de réfléchir à ce qui se passe, ce qui se passerait si on était en contact avec une civilisation qui était très différente de nous évolutivement, et la réponse, c'est l'ordinateur.
Oui, je trouve que vous allez un peu vite des prémices aux conclusions. Ah. Oui, c'est-à-dire que quand on pose la question de la vie extraterrestre. On pose la question de la vie. La vie est-elle possible? Existe-t-elle dans l'univers? On peut répondre oui ou non. Mais quand on pose la question, existe-t-il une vie intelligente dotée du libre arbitre, c'est-à-dire la définition de l'être humain, c'est tout à fait autre chose, parce qu'on peut très bien supposer que... moi je parle là en tant que catholique. Pour un catholique, il y a une loi qui est crossée, multipliée, et enseignée toutes les nations. Donc ça veut dire, le Seigneur nous dit, il faut partir à la conquête de la planète, et puis quand on aura conquis et converti toute la planète, il restera tout l'univers à ensemencer par notre croissance et notre multiplication. C'est pour ça que je suis scandalisé par les raisonnements malthusiens, qui sont un signe de désespoir et d'imbécilité. Mais l'idée même qu'il y ait une intelligence, une vie intelligente dotée du libre arbitre sur une autre planète, celle-là, elle est contraire à l'économie du salut. C'est-à-dire que si le Christ s'est sacrifié pour notre salut sur Terre, c'est parce que c'est un homme sur Terre qui avait péché. Et par conséquent, s'il y a une vie sur les autres planètes, ils sont... Ces vies intelligentes, ces êtres humains qui vivraient sur des autres planètes, sont exonérés du péché originel. Autrement dit, ils vivent dans la béatitude céleste. Et par conséquent, on ne les imagine pas vivant dans la béatitude céleste, en train de fabriquer un ordinateur pour venir s'occuper de nous. Il y a une incohérence là-dedans. Alors, je veux bien admettre qu'il y ait une vie intelligente, et qui serait comme une espèce d'écrin voulu par le Créateur pour accueillir ce que nous ferons le jour où nous aurons les moyens d'aller les voir pour croître, multiplier et ensemencer l'univers.
Ben, je vais vous répondre de la façon suivante. J'ai en projet de faire un livre sur la métaphysique. En tant que scientifique, en principe, je suis un croyant par des formations professionnelles, puisqu'on ne peut pas à la fois être religieux et être scientifique. C'est deux choses incompatibles, sinon on est schizophrène. Mais nous sommes obligés de réfléchir à toutes ces questions-là. Et moi, ma position consiste à dire que le problème de la conscience est absolument incontournable et la science n'explique pas la conscience. Donc les scientifiques vont être obligés de se poser des questions de métaphysique. Et se posant des questions de métaphysique, ils vont peut-être se les poser d'une façon qui peut vous déconcerter. Un jour, j'étais dans une couchette de train avec un séminariste et on a parlé un petit peu donc religion et je lui ai posé la question suivante. Est-ce que le Christ était génétiquement compatible avec l'espèce humaine ?
Probablement pas, puisqu'il avait pas de, il avait un problème chromosomique. C'est-à-dire que comme il n'a pas de père humain, son génome doit être différent du génome des autres humains.
Alors maintenant, nous aussi, les scientifiques, on réfléchit sur ces choses-là. Hein, la vie, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle se développe, c'est qu'elle croît et que le vivant augmente son champ relationnel. Hein. Maintenant, on a des téléphones portables, à quelqu'un on peut téléphoner à l'autre bout de la Terre. Donc, on est arrivé dans une situation où s'il y a une sorte de logique de la vie, c'est le contact avec d'autres planètes. On ne va pas s'arrêter.
Oui, c'est bien ce que je dis, tout à fait.
On ne va pas s'enfermer dans ce cas.
C'est évident.
Alors, à ce moment-là, quand on considère l'évolution des espèces vivantes, ces espèces vivantes, généralement, elles se dotent d'attributs qui permettent aux choses d'aller en avant. Par exemple, les plantes à fleurs, elles apparaissent en même temps que les insectes. Parce que si on a des fleurs, il faut des insectes pour les transporter. Et à ce moment-là, ça permet d'avoir un croisement. Il y a la reproduction sexuée qui apparaît, etc., etc.
Vaste question. Qui décide ?
Ben, ça, j'ai pas la réponse. Mais au moins, on peut se poser la question du phénomène. Ouais. Bon. Alors, à ce moment-là, l'homme, vous dites, il a libre arbitre. Mais il a surtout, au départ, quelque chose d'incontestable. C'est qu'il développe de manière hallucinante la technologie. Les animaux l'ont aussi. Les poules avalent des cailloux pour casser le grain. Il y a des oiseaux qui utilisent des petites baguettes pour prendre des fourmis, etc. Mais l'homme, tout d'un coup, il part dans une espèce d'aventure technologique absolument hallucinante. Alors, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Simplement avec un regard de quelqu'un qui regarde une espèce qui se développe en disant, tiens, elle a tel attribut. Bon. Alors, si elle développe la technologie, à quoi ça sert ? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie qu'on ne peut pas faire avec le vivant ? Ben, la réponse, c'est les voyages interstellaires. Donc, on pourrait se dire que si vraiment, derrière la vie, il y a une sorte de volonté d'aller ailleurs, c'est pas en prenant un oiseau dont les ailes vont atteindre des kilomètres qu'on va réussir à s'envoler vers d'autres trucs. Donc, il faut la technologie. Donc, s'il y a un plan derrière tout ça, et s'il y a une logique surtout, eh ben, la logique veut l'apparition de la technologie.
Ah ben, tout à fait, moi je suis tout à fait d'accord. Alors, et d'ailleurs, c'est ce que dit l'Écriture, enfin, ce que dit Saint Augustin, ce que dit Saint Thomas. Vous voyez, Saint Augustin dit l'homme est le jardinier de Dieu. Bon, à l'époque, c'était le jardinier, mais aujourd'hui, c'est aussi le maçon, le plombier, l'ingénieur informatique.
Je lance une deuxième idée. Vous avez donc une espèce qui va développer une technologie, et cette technologie se développe à une vitesse hallucinante. Elle est en particulier beaucoup trop rapide dans son développement pour être contrôlée par l'évolution biologique qui ne peut pas suivre. Donc il faut un attribut supplémentaire pour contrôler la technologie, pour empêcher qu'il y ait ce qu'on appelle une hypertélie, un dépassement de finalité, et que ça se retourne contre son... Et alors, La conscience, c'est la capacité de s'interroger sur les conséquences à long terme de ses actes. Et il est nécessaire que l'homme ait une conscience.
Mais on est d'accord sur l'essentiel. Moi, je crois qu'il y a un projet. C'est évident, il y a un projet et qui se développe et qui se manifeste à travers ce que vous nous dites. C'est-à-dire, il y a une espèce qui peuple cette planète et qui a été choisi pour porter. Alors, je vous donne la parole, mais vous voulez dire quelque chose, François-Xavier Médecin, Maxent.
Je voulais juste dire que peut-être par rapport à l'animal, ce qui peut nous différencier aussi, c'est non seulement la technologie, mais dans d'autres espèces animales, il y a une utilisation de la technologie, etc. Nous, on en fait une utilisation un petit peu peut-être abusive, mais c'est surtout notre capacité à nous transcender. C'est surtout ça la différence entre l'homme
c'est
et l'animal.
C'est ce que disait Jean-Pierre Petit, il y a une volonté de transcendance qui est aussi une des manifestations de la conscience. C'est-à-dire que c'est pas simplement par nécessité que l'homme produit de la technologie ou de la nouveauté, c'est aussi parce qu'il a le sentiment en conscience que c'est nécessaire au progrès de l'espèce humaine. Donc c'est pour le bénéfice de l'espèce.
Rappelez-vous aussi une chose, c'est quand le Christ se nomme, il dit qu'il est le Fils de l'homme.
Fils de l'homme, oui.
Avant toute chose. Oui. Et ça, c'est répété. Oui. Donc il est l'émanation de l'espèce humaine.
Alors, une auditrice nous dit que le Christ, oui, d'après le sueur de Turin, et également aussi d'ailleurs l'ampoule de Saint-Janvier, le Christ était de AB-, donc diploïde. Nous dit cette auditrice. Ce qui est intéressant, c'est que AB- c'est le groupe sanguin le plus réduit dans le monde. C'est infinitésimal le nombre de personnes qui appartiennent à AB-. Voilà, alors, vous voyez que le livre de fiction de Jean-Pierre Petit ouvre des horizons infinis. C'est vraiment le moment de le dire. Il est paru, vous nous avez dit, chez
Albin Michel.
Ça s'appelle L'année du contact. Et c'est un livre remarquable qui se lit très, très facilement, qui est d'une lecture très agréable.
N'oubliez pas les bandes dessinées, il faut sauver.
Et puis pour nos enfants.
Un auditeur nous dit bravo, je viens de lire L'année du contact, bravo pour l'intelligence de M. Petit et pour son talent d'écrivain.
Voilà.
Et puis, un autre auditeur, pouvez-vous nous parler de L'Enturlu ? Comment puis-je faire pour avoir les numéros manquants ?
Ah, bon, bonne question. Eh bien, à ce moment-là, il faut aller sur mon site internet et vous pouvez les avoir sous forme de CD-ROM.
Quel est votre site ?
HTTP.
HTTP.
Double slash, vous avez des petites barres obliques, là.
Elles sont écrites, alors, perdons pas de temps.
www.jp-trait-d'union.com.
Mais en fait, sur la plupart des moteurs de recherche, on tape simplement jp-petit.com et on arrive sur le site immédiatement.
Oui.
Alors, je rappelle que Jean-Pierre Petit a écrit à l'usage des jeunes adolescents, et même pas des jeunes adolescents, à l'usage de tout le monde d'ailleurs, des bandes dessinées qui sont les aventures d'Anselme L'Enturlu. C'est de l'excellentissime vulgarisation scientifique. On comprend beaucoup de choses, notamment le Géométricon, c'est formidable, parce qu'il y a des choses qu'on découvre et qui sont d'une telle complexité quand on essaye de les expliquer par la parole, et qui deviennent d'une telle simplicité quand on les voit à travers cette bande dessinée qu'on les découvre avec bonheur. Donc ces livres, Le Géométricon, Cosmic Story, Énergétiquement Vôtre, Big Bang, L'Informagique, Tout est relatif, et Elle court l'inflation, qui est une excellente vulgarisation économique. Vous pouvez les trouver, et puis pour quelques ampères de plus également, vous pouvez les trouver chez TXTNet, 47 rue Mellet, MESLAY, 75003 Paris. La totalité de la collection, si vous allez sur place, c'est 56€.
Les 8 albums.
Et il y a pour les 8 albums. Et 76€ si vous voulez les commander par la poste, les 20€, et représentant les frais de port. Et encore une fois, je rappelle l'adresse du site de Jean-Pierre Petit, www.jp-petit.com. Je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment un régal. Il y a tout. On se promène, on a l'impression de passer une heure de conversation avec quelqu'un qui sait énormément de choses et qui les dit d'une façon très, très sympathique.
Je voudrais dire un mot. Mon ami Jacques Benveniste est mort dimanche.
On a parlé de lui tout à fait au début de cette émission.
Il est enterré demain à partir de 14h45 au cimetière du Père Lachaise. Et Jacques, pour moi, c'est un compagnon d'armes, quoi.
Et un compagnon aussi de souffrance, parce que je sais que vous avez été la victime, comme lui, d'une véritable persécution, et c'est pour ça que je suis content de vous recevoir ce soir, parce
de même que
Monique Beljanski, de même que tous les gens dont nous avons parlé ce soir, vous êtes des combattants de la liberté de recherche et de la liberté de faire des travaux scientifiques. Merci en tout cas d'être venu nous parler, Jean-Pierre Petit. et nous dire votre admiration pour Jacques Benveniste. Et on va se détendre un petit peu peut-être avec notre ami le Marquis qui a quelques minutes. Vous avez, ben, je sais pas moi, vous avez des choses à nous dire, cher ami.
Oui, sûrement.
Je vois que vous nous avez dit que vous étiez allé où donc ça, à l'opéra.
Moi, j'ai une chose à vous dire. C'est un moment d'intense rigolade que m'a offert Radio Courtoisie. Je peux peut-être en parler.
Ah bah oui, il faut pas.
Il y a une émission extrêmement mondaine et intellectuelle où on a évoqué Françoise Sagan. Et évidemment, ça a immédiatement fait l'objet de grosses critiques en disant qu'elle n'était pas une fille fréquentable. Ah bon, je veux bien être d'accord. Et à cette émission, Jean Dutour et Pierre Moustier ont rattrapé la balle au bond en disant « Mais c'était peut-être pas un merveilleux écrivain, mais c'était en tout cas un grand auteur de théâtre. » Et dans tout le studio, tout le monde a découvert soudain que Françoise Sagan était un grand auteur de théâtre. Elle a quand même écrit « Le cheval évanoui »,« Château en Suède », qui a révélé Philippe Noiret, etc. Et alors j'ai eu l'impression que quand la boursouflure prend la place de la culture, la raison divague et la charité s'enfuit.
Oh.
Vous voulez que je vous le redise ?
Oui, en fait, moi ça.
Alors, quand il y a certaines émissions, quand je les écoute, je pense que quand la boursouflure prend la place de la culture, la raison divague et la charité s'enfuit.
C'est bien. Comme j'ai besoin d'amis, je vous remercie d'avoir cette réflexion dans mon émission. Ça va encore accroître ma popularité. Allez-y.
Alors, j'ai encore un petit coup, si vous voulez. Là, c'est peut-être de l'humour. Je me trouve, il n'y a pas tellement longtemps, dans un restaurant assez connu, dont la cuisine vole sur l'Olympe. La patronne est corse, son frère également, et son frère est un avocat extrêmement connu. Il entre dans le restaurant, on lui demandait rien, il vient à ma table. Et il dit « Ah, vous avez vu, Charles Pasqua a été élu au Sénat. » Et moi, je me laisse aller à dire « Est-ce que vous croyez que tout ça n'est pas la cause de la désaffection des électeurs pour la classe politique ?» Et la réponse tombe « Et s'il était innocent ?»
C'est
pas de l'humour, ça.
C'est le mot de la semaine.
Voilà, c'est le mot de la semaine.
Innocent, mais c'est un prénom de là-bas.
Bah, c'est un prénom de là-bas. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? Que je ne sais pas qui est derrière ça, mais il y a au Kino Panorama, tous les... Tiens, je suis comme vous, je trouve plus rien. Tous les mercredis, maintenant, une projection qui s'intitule « Je vous salue, Marie ». C'est un festival d'images sur écran géant de toutes les vierges à travers le monde, et c'est le film est fait par Tranche du Rosaire. Des mystères glorieux. Bien, ça. Alors, je crois que c'est la TFP qui est derrière, mais j'en suis pas sûr. Enfin, peu importe les gens qui sont derrière, on s'en fout. C'est un hommage à la Vierge absolument extraordinaire. Regardez dans les journaux, c'est tous les mercredis à partir du 15 septembre. Et il y a une séance à 14h, à 16h, à 18h. Et je suis arrivé juste à l'heure ici parce que j'en sors. C'est un enchantement. C'est formidable. Allez voir ça.
J'ai emmené ma petite femme. Tiens, ça, voilà. Ça, la petite affiche.
Alors, ben, pendant que je suis là, j'en profite pour vous rappeler que lundi 11, à 18h, 27 rue François Bonvin, la cathédrale Sainte-Rita, il y a une messe à la mémoire de notre ami René Saint-Cyr, et que c'est votre serviteur qui en parlera. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Que je suis allé
à l'opéra. Racontez-nous les grandes oreilles de... Vous avez 3 minutes pour nous parler des grandes oreilles.
Pour le gala de l'entente cordiale. Et on attendait le maire de Paris. Il n'est pas venu. Nous étions dans l'attente cordiale. Il n'est pas venu. Bon. Et ben, le prince était comme d'habitude. Il avait toujours un peu égaré. Madame Chirac avait l'air tellement contente de se frotter à lui. Et à ma table, j'avais le nouveau général commandant de la garde républicaine, qui est affublé d'une dame qui ferait mieux de rester chez elle quand il y a un gala. Et le mot de la fin, si vous voulez, j'étais dans ma loge. Et je regardais la loge centrale avant que les hymnes nationaux ne démarrassent ou n'éclatassent. Et derrière moi, une bonne femme très chic. Qui dit « Oh, mais moi j'ai payé pour voir des ballets sublimes, je suis pas là pour m'emmerder à attendre ces pingouins. » Il s'agissait du prince de Galles et de Madame Chirac.
Quelques messages, non pas messages, mais...
Non, mais c'est, oh, je rappelle l'adresse pour Mégamine et Méganine. Green, pardon. Alors, Azur, H-A-S-U-R, plus loin, T-C-F, lieu dit Interwald. H-I-N-T-E-R-W-A-L-D 67250 Unspach H-U-N-S-P-A-C-H. Il y a un numéro de téléphone 03 88 80 59 75.
Je vais vous donner l'adresse la plus simple de la soirée, moi, le Libre Journal, 4 Place France-Lys, Paris 10e.
Et les chœurs de Saint-Éloi, la chorale. On peut le commander à l'association Église Saint-Éloi, 40 rue Paul-Louis Land, LNDE, 33 000 Bordeaux, pour 17 euros, port compris. Le pèlerinage de la tradition catholique à Lisieux aura lieu le samedi 9 octobre à 15h. Messe grégorienne dans la basilique en l'honneur de Sainte Thérèse. Pèlerinage organisé par Monsieur l'abbé de la Motte. Et puis, il y a un livre sur Robert Brasillach.
Oui, on en parlera plus tard.
Non, il faut... vous deviez... Attends, Stéphane Courtois, pendant que vous parlez, samedi 23 octobre, on a le temps, on
oui.
sera plus tard.
Bon, et puis il y a une conférence très intéressante de Delval sur la Turquie qui est organisée par l'association Occidentalis au Havre. Ça se passe le vendredi 15 octobre à 20h, salle Cassin, 130 rue Anatole France. Je le signale pour tous nos auditeurs de Normandie. Et d'autre part, je vous rappelle qu'il est prévu un récital de piano de Madame de Bézieux dans sa propriété. C'est du côté de Lisieux également, je dis ça pour les mêmes auditeurs de Normandie, mais ceux de Paris peuvent y aller. Pour en savoir plus, il faut l'appeler au 06 17 23 56 60. 06 17 23 56 60. Elle vous dira exactement où ça se passe. C'est le dimanche 17 près de Lisieux.
Et puis vous avez parlé tout à l'heure de la conférence de l'association des amis de Poincaré. C'est demain à 14h à l'école des mines, 60 boulevard Saint-Michel à Paris. Donc.
Merci à tous. Bonne semaine. Que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 6 octobre de 18 à 21h, en différé jeudi 7 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par...